Yuma, Daf Pei Amud Alef. Amar Rabbi Yochanan, Yana Stérix ici à côté. Amar Rabbi Yochanan, Shiurin, Ve Onchin Halacha la Moshe Mitzenay. Donc les Shiurim, ça veut dire que le Shiur que nous faisons ce matin dans Masechet Yuma, Ve Onchim, et les punitions pour les Rashaim, c'était fixé par Moshe au Sinaï. Moshe l'a fixé qu'on fait un shiur ce matin. Comme ça, Mashma de la Gemara.
Ah, je crois que c'est une autre traduction.
Je pense que c'est une autre traduction, mais shiurin, c'est un shiur, non?
Shiurin, non. Attendez, je n'ai pas la Gemara encore.
Ah, voilà.
Peut-être c'est une mesure, c'est une mesure, non?
Ah oui, peut-être c'est une mesure. Oui, c'est possible, c'est une mesure. Et pourquoi quand on fait un shiur gemara, ça s'appelle shiur mesure? Quel est le sens? On fait un shiur. Pourquoi on appelle ça un shiur?
Ah bon, mais...
Pourquoi quand on fait un shiur Torah, on n'a pas le droit de le dépasser ou quoi? C'est mesuré, c'est quoi?
La dose de Torah.
C'est bizarre. Est-ce que shiur, on fait un shiur Torah, est-ce que c'est un langage de Chazal ou c'est moderne? On dit « fait un shiur ». Est-ce que c'est
moderne,
le
moderne,
moderne, moderne, moderne.
Pourquoi vous avez scanné tous les chasses et vous n'avez pas trouvé le mot « shiur » pour un enseignement? Vous venez de scanner le chasse maintenant?
Les chaires, c'est évaluer comme Shuma. C'est une évaluation.
Peut-être ça vient de l'expression de la Gemara Kavata itim la Torah. Tu as fixé un ton pour la Torah. Ça veut dire que la mitzvah de l'imouda Torah existe 24 heures sur 24 heures, mais comme il n'est pas possible d'étudier 24 heures, parce qu'il y a d'autres besoins, donc les Chachamim demandent Kavata itim la Torah. Est-ce que tu as fixé un ton? Bien sûr, l'important, ce n'est pas seulement de fixer, mais c'est de tenir le temps fixé. Donc, shiur, le sens du shiur, c'est la mesure, l'étude de la mesure que l'homme il se fixait pour la Torah. Et kavata itim, ça c'est bien une expression. Mais je ne sais pas, il faut chercher. Mistam en trouvera dans Chazal le mot shiur dans le sens faire un shiur. Il faut vérifier. Alors, on va continuer. Shiurim ve'onshim halakha la Moshe Sinai. La Gemara pose la question. Onshim michtav ktive. Onshim sont marqués dans la Torah. Donc, c'est dans la Torah écrite. Donc, halakha la Moshe Sinai, c'est dire c'est seulement dans la Torah orale. Elakha kamar Rabbi Yochanan. C'est ça qu'il veut dire Rabbi Yochanan. Shiurim shel onshim halakha la Moshe Sinai. Des shiur, des punitions sont halakha la Moshe Sinai. Pourquoi il dit de onshim? Pourquoi il ajoute le mot onshim? Peut-être Rabbi Yochanan veut faire une petite allusion ici. Parce qu'on avait vu au début du Perek, si vous vous rappelez, est-ce que Hatsi Shi'ur Asur Minatora ou Mutar Minatora? Vous vous rappelez? Ce que mange un demi-kezaït Chazir, est-ce que c'est Asur Minatora ou pas? On avait vu Machloket Rabbi Yochanan Resh Lakish. Rabbi Yochanan dit Hatsi Shi'ur Asur Minatora, Rabbi Yochanan. Donc le shiur de Zahayit, c'est pas vis-à-vis de l'interdiction. L'interdiction c'est même mach ou le Rabbi Yochanan. Mais vis-à-vis du chiouf malkout, la punition ou le chiouf korban, ceux qui mangent un kezait chelef, ou notar, ou dam, ou pigoul, le shiur pour être chayav karet ou chayav malkout, ça c'est si on mange un kezait. Mais vis-à-vis de l'interdiction, c'est même un mashu. Donc c'est très médoctax ce que Rabbi Yochanan dit. Rabbi Yochanan shitato. Shiurim shel onshim. Les shiur de la punition au bedin ou vis-à-vis du ciel, vis-à-vis de karet ou de malkout, ça, vis-à-vis de ça, le shiur il est kezaït. Fixé mi'alach Sinaï. Mais le shiur de l'interdiction, non, le firash lakish. Il faut shiur shel isur halakha la Moshe Mitzenay. Le shiur du isur halakha la Moshe Mitzenay, ça commence à partir de kezaït et pas moi. Mais le fils Rabbi Yochanan, c'est seulement le shiur de onshim. Donc c'est très médoukda. Alors, achirim omrim, il y en a d'autres qui disent, Normalement, quand on dit Acherim Omrim, c'est Rabbi Meir, normalement. Donc, le Tanne ne voulait pas dire. Et pourquoi le Tanne ne voulait pas dire Rabbi Meir? Parce qu'il a étudié chez Elisha ben Avouya. Donc, une halakha qu'il a entendue chez Elisha ben Avouya, Mistama, sur ça, on dit Acherim Omrim. Bet dino shel Yahavetz tiknum. C'est le Bedin de Yahavetz qui a instauré le Shiur Kezait. Alors, qui c'est Yahavetz? C'est qui ce rabbin? Un rabbin qui s'appelle Yahavetz? Il a vécu à quelle époque? Alors, c'est Asniel ben Knaz. Tout de suite, quand les Juifs ils sont rentrés en Eretz Israël, au début de Sefer Shoftim, il y a un homme qui s'appelle Otniel ben Knaz. Et lui, c'était ou le gendre de Yeshua ben Nun, ou le gendre de Yeshua de Caleb ben Yefouné, j'ai oublié. Il faut vérifier dans le chasse. C'était le gendre de Yeshua ben Nun, si je ne me trompe pas. Yeshua ben Nun était le Gadol Ador, le successeur de Moshe, et son gendre, Otniel ben Knaz. Et lui, c'était le Shofet. Après Yeshua, c'était Otniel ben Knaz, le Shofet. Et lui, c'était le Gadol Ador. Et il avait une yeshiva dans une ville qui s'appelle Kiryat Sefer. Aujourd'hui, ils ont donné le nom Kiryat Sefer au nom de cette ville d'Otniel ben Knaz. Et c'était la plus grande yeshiva. Ça, c'était le centre du Bedin. Malgré que le Bedin était installé à Shiloh, au début, le Bedin, il était à Gilgal. À Gilgal. Et après 20 ans que c'était à Gilgal, c'était installé à Shiloh. C'est marqué dans notre Nahmi, Esrim Shana. Alors, le Mishkan était installé à Shiloh. Mais le Bedin, c'est un chidouche, le Bedin, la Lishka Tagazi, doit être à côté du Mizbeach. Veille le Mishpatim à Shatasim Lifnehem. Veille pour nous dire que le Mishpatim, que le Sanhedrin Akadol doit être à côté du Mizbeach. Donc, si le Mizbeach était à Shiloh, donc, le Bedin aurait dû être à Shiloh. Et là-bas, il avait un grand chacham, Achia HaShiloni. Achia, le jeune homme qui était à l'époque de Moshe Rabbeinu, jeune homme, et qui a vécu plus que 700 ans. Il a vécu encore après David de Melech, il a vu Elianavi. Achia HaShiloni. Lui, il était à Shiloh, il s'appelle Shiloni parce qu'il était à Shiloh. Mais comment ça se fait que les Chachmé Israël, ils étaient réunis à Kiryat Sefer chez Yahavetz? C'était le Rosh Yeshiva, ce qui enseignait. Mais il était le Shofet. S'il est le Shofet, c'est lui qui a décidé les Halachot. Alors pourquoi Achia, il était à Shiloh? Et pourquoi lui, il était à Kiryat Sefer? Comment ça se fait? La yeshiva, elle était à Kiryat Sefer. C'est dans la tribu de Yehuda. Kiryat Sefer, c'est dans la tribu de Yehuda. Et Otniel ben Knaz était de la tribu de Yehuda, si je ne me trompe pas. Comment ça se fait qu'il n'a pas fait sa yeshiva à Shiloh? Peut-être parce que c'est... Peut-être le din de Mizbeach existe seulement au Bet HaMikdash. Peut-être ce din qui est à côté de Mizbeach, c'est seulement si c'est à côté de Bet HaMikdash, mais c'est marqué Mizbeach HaDevanim, Ta'aseli, Lechora, Ashil aussi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Alors, où nous sommes? Alors, Bet Dino shel Yahavetz Tiknum, c'est le Bet Din de Yahavetz qui était Metaken, machma que c'est le plus grand Bet Din de Klal Israël. Si le Bet Din de Achia aurait été plus grand.
A priori, c'est le gendre de Kalev. Hein. J'ai bien dit que c'est dans Shoftim.
D'accord, alors je me suis trompé.
Dans Shoftim 1-13.
Et Kalev Ben Yefouné, il avait une fille. Et comment il s'appelait déjà cette fille?
Arsa.
Arsa.
Arsa, voilà.
Et elle a réclamé chez son père, pourquoi tu me maries avec un homme qui est complètement sec, qui ne connaît que l'étude, il ne connaît rien d'autre, il ne sait pas apporter parnassa. Il ne peut pas me nourrir. Tu m'as donné un homme qui sait qu'étudier. Comment je vais faire? Alors, Kalev Ben Yefuné, il a ajouté Gouliot al-Iliot et Gouliot tachtiot. Il a ajouté une parnassa à sa fille. Alors, quand Yeshua Benon, à l'époque de Yeshua Benon, pendant les 30 jours de deuil de Moshe Rabbeinu, les Juifs, ils ont oublié 1700 kalvachomer et xerashava, les drashot. Berziran Atniel Beknaz mi pilpulo. Et c'est Atniel Beknaz, le pilpul, il a fait des chidushim, il a fait discuter avec ses pères, ils ont tout retrouvé. C'est-à-dire, lui, c'était le grand mefalpel. Yeshua Benon Kaniré était le mémoire, comme un genre de Rabbi Eliezer. Il connaissait tout ce que Moshe il a dit. C'était le mémoire. Et ce qu'on avait oublié, il fallait faire un pile pour lui. C'était comme Rabbi Elazar ben Hur, quand on s'en dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, il avait 5 élèves. Hein, Rabbi Elazar ben Hur, que nous, c'est Borsit, c'est le mémoire. Et on dit que Rabbi Elazar n'a jamais dit un chidouche de lui-même. Seulement, il a transmis ce qu'il a entendu de ses maîtres. Et Rabbi Elazar ben Arach, il était comme Mayan Hamidgaber, ça sortait les chitushim. On dirait qu'un Nimel Knaz était un genre Rabbi Elazar ben Arach, et Yeshua ben Nun peut-être était un genre Rabbi Elazar ben Hurkunus. Alors, les chitushim, mais c'est lui et son Bedin Tiknum. D'accord, alors on continue le Gemara. Va active, mais il est marqué, et il a mitzvot, et il a vir, et il a chadesh d'avoir me ata. Et les mitzvot, voici les mitzvot. C'est le début du passage qui manque ici, les etc. C'est le dernier verset de Sefer Shemot.
C'est quelle page?
C'est le dernier verset de Sefer Vayikra. On va regarder quelle page. Dans mon Chumash, c'est la page. C'est la page Tavresh Nun Vav. Alors, Eile HaMitzvot. Asher Tziv Hashem et Moshe El Bnei Israël Bahar Sinai. Voici les mitzvot que Dieu a ordonné à Moshe, aux Juifs, au Har Sinai. Ça veut dire quoi au Har Sinai? Sefer Vayikra, c'est le dernier verset de Sefer Vayikra. Sefer Vayikra était dit au Har Sinai. Ça veut dire quoi au Har Sinai? Le premier verset. Quel est le premier verset de Sefer Vayikra? Vayikra el Moshe, vaydaber elav me'ohel moed les morts. Donc Sefer Vayikra a été enseigné dans le Ohel Moed. Mais on dit que c'était enseigné pendant les 40 jours. Mais c'est parce que c'était répété. Pendant Moshe Rabbeinu était 40 jours au Har Sinai, la première fois, il a entendu des klalim, les grandes règles. Il m'a dit que Rabbi Kiva Rabbi Ishmael, s'il a étudié klalim ou pratim au Har Sinai et shanam au Ohel Moed, s'il a reçu aussi les klalim, aussi les pratim dans les 40 jours au Har Sinai et après au Ohel Moed, tout était répété. Ou le pshat, il est que au Har Sinai, il a reçu les klalim, les 40 jours il a reçu les klalim, et au Ohel Moed, il a reçu les pratim. Maintenant, le Ohel Moed était devant le Har Sinai pendant 50 jours. Rosh Chodesh Nissan, ils ont inauguré le Mishkan, et Rosh Chodesh Nissan, ils ont inauguré le Mishkan, ça on a vu hier dans la Kriyata Torah, vous étiez sûrement à la Kriyata Torah chez vous à la maison, et ils ont resté jusqu'au 20 Iyar. 20 Iyar, les Juifs ont sont partis du Har Sinai. Donc, quand on dit Eila mitzvot eshertziv Hashem et Moshe ben Israël b'Har Sinai, c'est-à-dire les mitzvot qu'il a reçus dans le Ohel Moed pendant que l'Ohel Moed il était campé à côté du Har Sinai. B'Har Sinai, un double sens. B'Har Sinai, dans les 40 jours qu'il était au haut, et B'Har Sinai, dans le Ohel Moed qui a campé à côté du Har Sinai. Parce que ce qui se passe après, il y a des mitzvot après qu'on parle. Dans Sefer Bamidbar, dans Sefer Dvarim, il y a encore des mitzvot. Alors, quand il dit que ces mitzvot, Moshe Rabbeinu, il a reçu l'Ichora après. Il y a des choses qu'il a reçues après. ou peut-être il a tout reçu déjà, mais ce n'est pas marqué ici dans Sefer Vayikra. Les mitzvot qui sont plus tard, écrit cette Sefer Torah, la mitzvah de Hakel qui est marquée dans Parashat Vayelech, est-ce qu'il a aussi reçu à Har Sinai ou l'a reçu plus tard? Au premier jour des 40 jours, Mistama, oui, le premier 40 jours, mais est-ce qu'il s'est reçu ça au El Moed? Ici, en tout cas, dans ce verset, c'est le verset Eila mitzvot ashtiv Hashem et Moshe ben Israël barzane. Ces mitzvot, il a donné, ou peut-être ça au fin klali, tous les mitzvot en vérité, il a reçu à Har Sinai et répété dans El Moed, peut-être. En tout cas, donc, la Gemara demande la Kushia, donc le Shiur.
Jusqu'au 20 Iyar, ça fait 50 jours, ça fait pas 40 jours.
J'ai pas entendu, qu'est-ce que tu dis?
Jusqu'au 20 Iyar, ça fait 50 jours, ça fait pas 40 jours.
50 jours, oui, qui a dit 40 jours?
Ah, pardon, j'ai mal compris. Alors.
J'ai dit 50 jours avant, oui. Alors, donc le Shiur, la Gemara demande, comment tu peux dire qu'il y a Avetz? Il a instauré le Shiur Kezaït. Parce que on nous dit un drasha, la Gemara fait un drasha, et il est hamitzvot asher tziv Hashem et Moshe. Voici les mitzvot que Dieu il a donné à Moshe Bar Sinai. Ça veut dire quoi? She'en rir she'il chadesh davar me'ata. Un prophète ne peut pas chadesh, il peut pas inventer une halacha. Pas seulement une mitzvah entière, il peut pas inventer, même un détail. Kezaït, le shiur kezaït, c'est un détail d'une mitzvah. Il y a mitzvah. Il y a une interdiction de manger chazir. Maintenant, il y a un détail qui s'appelle le shiur kezaït. Le navi n'a pas le droit d'inventer quelque chose. Un navi, Rachel Khadesh Mahar, parce que la Torah dit, et la mitzvot est chertiv Hashem et Moshe. Les mitzvot, donc on voit de la Gemara que ce sera pour vous, enfin, que la liste sur tous les mitzvot de la Torah. Pas seulement ceux qui sont marqués dans Parashat Vayikra. Ou c'est ok, c'est marqué Parashat Vayikra, Parashat Shemini. Hier, on a vu tous les ma'achalot asurot. Tu ne manges pas ma'achalot asurot. Et les Issour, il est donc un Shiur de Shiur, il est les Korbanot, etc. Donc, c'est le Shiur Kezait. Donc, Yahvetz ne peut pas l'inventer parce que c'est obligé de venir de Moshe, parce que Dieu ne donne plus de Torah à travers le Navi. Mais les fois, la Gemara, elle aurait pu répondre. On avait déjà dit ça plusieurs fois, qu'il y a des choses que la Torah, elle a transmises aux Chachamim de fixer. Masrana Katoub le Chachamim, on avait dit les dinim de Chol HaMoed après beaucoup de Rishonim, où on a vu le Shittat HaRambam, les dinim de Yom Kippour. La Torah n'a pas défini quels sont les Inouïm. La Torah, elle a laissé au Chachamim le loisir, elle a dit fait des Inouïm, et on a cinq fois le mot Inite Metnaf Shotechem, cinq fois. Donc la Torah, elle a transmis, Hashem l'a transmis à Moshe, il faut qu'il y ait cinq Inouïm, mais la Torah laisse au Chachamim de définir les modalités. Alors la Torah, la Gemara aurait pu répondre, Keter, Moshe Rabbeinu l'a reçu, on n'a pas le droit de manger chazir et achila, et c'est vous, Chachamim, vous allez fixer c'est quoi la définition d'achila, et donc Yahavetz, il a fixé à Kezaït. Pourquoi la Gemara, c'est sûr que ce n'est pas possible. Ça veut dire, on ne dit pas sur chaque chose, Masrana Katouf le Chachamim. La Gemara, pour moi, c'était pas chute qu'on dit pas sur les Shiur Kezaït. Les Shiur Kezaït fait partie d'une loi intégrale. La Torah nous dit, si tu manges Chazir, tu es Chayav, Achila, ça c'est pas Masrana Katouf le Chachamim. C'est sûr que ça c'était fixé depuis Hashem il a dit à Moshe. Pourquoi c'était pas chute? Bon, c'est vrai que c'est très rare qu'on dit Masrana Katouf le Chachamim. C'est un moussa qui est rare. Il n'est pas ce qui est mis à Torah, c'était donné à Moshe. Il n'a pas transmis au Chachamim de définir.
Non, mais la Gemara, juste après, elle dit s'ils ont oublié.
Ah, ça c'est autre chose. Mais on va voir. La réponse de la Gemara, elle est Chachachum. La Chachachum, ils ont oublié. Vechazrou veyazdoum. Donc ça, cette Gemara fait allusion à la Gemara que je citais avant, la Gemara dans le Sechet Me'ila. Chachachum, les Chacham, ils ont oublié 1700 halachot. Et après, Atniel ben Knaz, il a fait un pilpoul, il a retrouvé. Donc ça fait partie d'Halachot que tu oublies, qu'il a retrouvé. Il a retrouvé par un pilpoul, il a pu prouver que c'est Kezaït, que Beitza, etc., les Shurim. Et Bemet, ça a été donné à Moshe. Cette Gemara, elle est Atsum. Ça refait toute l'histoire des réformés, tous les happy coursing, toute la critique biblique, tous ces bins, toute cette rébellion malheureuse, tragique contre la Torah, de tous ces philosophes, tous ces amarets, tous ces pilpoulim. Ça refait tout ça. C'est pas chaud que c'est pas Adniel Ben Knaz qui a pu instaurer les chiots kezaït. Alors, la moche misinaï. אין נביא רשאי לחדש דבר מעטה. שרבי מאיר ידי בית נשון שיעבץ תקנום, זה פא פוסיבל. זה השיעור כתדוני אמר שער סיני. ותהיו בלי הפרסה תראה תרובי פרדנל בן כנז. קומביין דני הפרסה שפסס את היסטוריה דתית לבן כנז. הכלם המויס האנסטלי. תמר כתון לתנך הכלם המויס האנסטלי לבת נהיה בן כנז. תוצפית איזו שבע שכיפשו ושבע שחילקו. Cette année, c'était la guerre. Après cette année, il y en a distribué. 14 années, ça durait. Et après, c'est marqué là-bas Kalev Benifoune, on lui a donné. Moshe Rabbeinu a donné. Et Yoshua Benon, il a donné Kalev Benifoune et Hebron. Et après, on a donné à Daniel Ben Knaché. Bon, c'est une vingtaine d'années après Moshe Rabbeinu, il est rentré, c'était cette histoire. Daniel Ben Knaz, il avait demandé tous les chachas, ils sont venus chez lui. Ils ont fait un long pilpoul pour retrouver tous ces 1700 kalvachomer qui étaient oubliés. Alors, on va continuer.
Excusez-moi, Rav, avant de continuer, excusez-moi. L'histoire de tout début qu'on a vu mardi, que quelqu'un qui a mangé un chiour et qui doit noter sur un carnet. Alors, Tarles, on fait quoi? D'après notre malar de la Gemara. J'ai pas bien. J'ai loupé un petit moment vendredi et qu'est-ce qu'il en ressort?
Que le Bedin, il peut contredire deux fois le Bedin avant. Quand il y a une tradition, un certain chiour, le Bedin que Eline veut venir, il peut faire une correction. Mais pas tout. Soit que nous étions dans l'erreur. Et soit que l'erreur, si l'erreur elle avait été gravissime, on aurait dû apporter un corban. Mais la Gemara nous dit qu'on n'apporte pas de corban. Ceux qui mangent aujourd'hui un shiur kezaït, ce que nous appelons un kezaït, et chez nous, c'est ceux qui mangent aujourd'hui un shiur qui s'appelle pachot me kezaït, il ne doit pas apporter un corban. Et même si l'ennemi va venir, il va corriger, il va dire le kezaït, il est plus petit. Et que vous avez vu manger Kezaït, la Gemara nous dit on n'apporte pas de korban parce que c'est pas Shav Mediato. Et ça, on avait posé la question, mais dans Maseret Horoyot, il est marqué que si Bedin se trompe, on fait vie un Khatat. Alors, on avait dit, les Chora, il faut dire qu'il y a des graves erreurs de Bedin, il y a une grave erreur de Bedin. Alors là, il y a un din que ceux qui s'appuient sur eux, ils doivent faire un korban. Il y a d'autres sortes d'erreurs de Bedin qui sont de Shikul Hadarat Kanire qu'on peut interpréter de deux façons. Et là, si notre Bedin, notre tradition, nos rabbins nous ont dit comme ça, et après on voit que c'est une erreur, on va suivre depuis. Et bien évidemment, on va suivre le prochain Bedin, mais notre Bedin, mais nous ne apportons pas de Korban. Parce que quand il est qu'il y a des fois, c'est une erreur dans Shikul Hadaat qu'on n'apporte pas de. Si on se trompe, on n'apporte pas le Khatat dessus. Et sur ça, on avait dit que tous les machloques dans le chasse, Rabbi, Rabbi Ouda, Rabbi aussi, tous les machloques, Betcham, Vetilel, tout, Kola Torah Kula, où il y a des machloques. Ou d'après d'un Tane, c'est permis, d'après l'autre Tane, c'est Chayav Karet. Alors, si la Tidlavo, si les gens, ils ont fait comme le Tane, qui permet, après on va voir la halakha, il sera comme le tane qui osère. Est-ce qu'on apporte un khatat? Mistabia qu'on n'apporte pas korban khatat. Ce n'est pas considéré comme le bedin qui se trompe. C'est un echaradat. Il y a deux façons de voir. Et le Rov, il disait, à une autre époque, le Rov, il disait comme ce tanaïm. Il veut dire non, le Rov, il est comme l'autre tana. Maintenant, les chora, on aurait pu dire, on peut poser un autre coucher maintenant sur la Gemara. C'est marqué, et la mitzvot, chez Navi, Rashi, le chadesh devatar, le prophète. Il ne peut pas m'achadèche une nouvelle Torah. Mais pourquoi la Gemara parle de prophète? On n'a qu'à dire qu'Atnie Beknaz, il a fait un chidouche à la Kha, pas midin prophète, midin chacham. Les chachamim peuvent instaurer des choses. Les chachamim, ils peuvent instaurer une takana. Alors, quand le pasuk dit, il a mitzvot, Mais quand c'est un navire, c'est le Khadishavata, le prophète peut pas instruire, c'est-à-dire le prophète qui vient au nom de Dieu, un prophète qui dit Dieu m'a dit une nouvelle halakha, Dieu m'a dit une nouvelle mitzvah, ça on peut pas. Mais si les chachamim disent nous voulons faire une nouvelle mitzvah, on a instauré la bougie de Hanouka.
Non, l'époque... mais là, quand il dit.
Une seconde.
Pardon.
À l'époque de Hanouka, il n'y avait pas de prophètes. Et les chachamim, ils ont instauré que nous allons faire la mitzvah de Hanouka. Il y a des mitzvot. Netilat yadayim, ma chère, qui déchaînent nos mitzvot, avec Sivanou, en netilat yadayim. Cette halakha, netilat yadayim, est instaurée par le bedin de Shlomo Melech. Shlomo et son bedin, ils ont instauré le mitzvot de netilat yadayim. On fait Eruv Khatzirot. Que deux juifs qui habitent dans le même immeuble, ils mettent le pain, ils disent, ma chère, qui déchaînent nos mitzvot, avec Sivanou, al mitzvot, Eruv. Et bien, c'est instauré par Shlomo Melech. Alors, et ça ne contredit pas les yesot, la Torah a été donnée par Moshe. Parce que Shlomo n'a pas dit que Dieu m'a dit par mes voix. Si les un homme il parle au nom de prophète, tu es un faux prophète. Dieu ne donne pas des halachot par mes voix. C'est pour ça que Yeshua Benon, quand ils ont oublié les 400 halachot, eh bien, Yeshua Benon, il a consulté Dieu. Il a dit, Dieu, dis-moi la halacha. Les 1700 halachot que j'ai oubliés, tu peux me les passer? Il a dit, non, je ne peux pas te passer parce que toi, tu veux que je te passe le titre de prophète, mais aucun prophète, il a le droit de dire une nouvelle halacha. Dieu ne donne jamais une halacha. Avec un prophète, c'est une protection. La Torah voulait protéger le peuple juif des faux prophètes. Parce que si un prophète il peut venir en halakha, il y aura des faux prophètes qui vont s'introduire, ils vont trafiquer la Torah, ils vont dire Dieu m'a dit une nouvelle halakha. Donc il y a ici une garde fou phénoménale que Dieu il a dit, je donne la Torah à travers Moshe. Si vous oubliez, tant pis, eh bien, vous avez oublié. Eh bien, si vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas quoi faire. Mais moi, je ne vais jamais dire à un prophète quoi faire. C'est à vous de vous débrouiller, débrouillez-vous des... Et vous faites ce que vous voulez, et si vous n'arrivez pas, ben vous vivez dans le doute. Vous faites ce qu'il faut faire quand on a un doute, et on fait ce qu'il y a de doute. Mais moi, je ne vous dis pas. C'est une protection pour qu'aucun prophète ne puisse embrouiller les juifs. Maintenant, si les chachamim lui disent, Dieu n'a pas demandé ça, mais nous demandons. Dieu n'a pas demandé d'allumer les bougies de Hanouka, mais nous demandons d'allumer les bougies de Hanouka. Maintenant, les chachamim, ils ont un courage d'instaurer. Alors, la Gemara, il aurait pu dire sur Yahavetz, mais Yahavetz n'est pas venu à titre de prophète. Yahavetz est venu à titre de Takanat Chachamim. Nous sommes Taken que les Shur et les Kezaït. Alors j'écoute le docteur Hervé.
Je voulais juste dire, quand c'est marqué prophète, c'est que même un prophète, il vient et il dit voilà, ça ne marche pas. Même
à plus forte raison un Chacham.
À plus forte raison un Chacham.
Mais je pense que tu n'as pas entendu qu'est-ce que j'ai dit les dernières 2 minutes. Je viens de dire dans les dernières 2 minutes que les chachamim peuvent lui instaurer des mitzvot. Tu entends, Hervé?
Oui, j'entends.
Et donc, les chachamim peuvent lui, donc tu ne peux pas dire. Même un prophète ne peut pas inventer. À plus forte raison, un chacham ne peut pas inventer. Oui, un chacham peut lui inventer. Les chachamim peuvent inventer une nouvelle mitzvah.
Mais un prophète, il aurait pu inventer aussi l'allumage des bougies, le Hanouka.
À titre de prophétie ou à titre de chacham?
À titre, prophétie.
Voilà, c'est ça qu'il ne peut pas. Si, à titre de prophétie, si un prophète, il dit, Dieu m'a dit que je dois inventer une nouvelle mitzvah, ça, il ne peut pas. Voilà. Voilà. Le prophète ne peut pas venir d'une nouvelle mitzvah. Si le prophète il dit, Dieu m'a dit de faire mitzvah de Hanouka, monsieur, vous ne pouvez pas. Ce n'est pas possible, Dieu ne vous a pas dit ça. Mais si les chachamim disent, indépendant de prophétie, nous, à titre de chokhma, ça, ils ont le droit. Et pourquoi ici, on n'a pas besoin de garde-fou? Et parce que, pourquoi pour prophétie, il faut un garde-fou? La Torah veut protéger qu'il n'y a pas de mitzvot par un prophète de peur que ça va se déformer. Et pourquoi la chachamim, on ne craint pas? Parce que chachamim, c'est beaucoup de chachamim ensemble. Et ils ont, les chachamim, c'est autre chose. Chachamim, c'est la chokhma des gens. Et la Torah fait confiance que les chachamim, le peuple juif, ne va pas se tromper qui sont les chachamim ou pas. Tout le monde disait que les libéraux, ce n'est pas des chachamim, c'est des ignares, c'est ce qu'ils sont. Et on ne va pas se tromper derrière eux. Les chachamim, chachamim Israël, le Sanhedrin, on savait qu'ils ne vont pas se tromper. La Torah leur fait confiance. Mais un prophète, c'est autre chose. C'est beaucoup plus puissant et c'est beaucoup plus malin. On peut tromper et les gens, ils vont le gober aveuglément. Un homme, il dit, je suis prophète. Il joue le cinéma des prophètes. Il a une barbe de prophète. Il parle des trucs, des machines. Il fait encore un peu de magie avec. pour faire des miracles. Le prophète, il est soutenu par les miracles qu'il fait. Et alors, donc, après, il peut troubler, le peuple va suivre aveuglement. Mais les Chachamim qui font un takana, c'est autre chose.
Voilà, ils ont fait takanot.
Voilà.
Les Chachamim, ils ont mis des barrières. Donc, ils ont rajouté des trucs. Ils ont dit, voilà, ça. Mais ils n'ont pas inventé des nouvelles mitzvot.
Ils ont inventé des nouvelles mitzvot. Comme tu dis, que tes oreilles entendent bien. Tu as bien lavé les oreilles ce matin. Ils ont inventé des nouvelles mitzvot. Ils ont inventé une mitzvah de Netilat Yadayim. Ils ont inventé une mitzvah d'allumer les bougies de Hanouka.
Ça, c'est une barrière. C'est des barrières, ça.
Non, ce n'est pas barrière. Il y a Geder, il y a dans le Rambam, Hichot Mamrim. Je te lis le langage du Rambam. Alors,
mais il y a des choses que les Chachamim ont instaurées et qu'on n'a pas acceptées, nous les Juifs.
On a toujours accepté ce que les Chachamim disent.
Si les Juifs ils acceptent pas, eh ben la Takana ne tient pas. C'est ce qu'on avait vu.
Mais il y a eu des discussions sur ce qu'ils ont inventé.
Alors, je lis ici. Hilchot Mamrim Perek Aleph. Bedin Agadol Shibirushalayim Hem Ikar Torah Shebalpi. Le Bedin, le grand Bedin de Jérusalem, c'est la base de la Torah orale. Bem Amudei HaHora'a, c'est le socle de la décision. Umehem Chok Umishpat Yotze Lekol Israël. Deux, ils sortent la loi pour tous les Juifs. Alehem Iftiha Torah. La Torah fait la promesse sur eux. Shenem Alpi HaTorah Sher Yerucha. Sur la Torah qu'ils vont enseigner, Zumitzvot Asei. Bechol Ma'amin Bemoshe Rabbeinu Betorato. Chacun qui fait confiance à Moshe Rabbeinu et à sa Torah, il est obligé d'appuyer la pratique de la religion sur eux. Il doit faire confiance aux Chachamim. Kol mi she'eino osek v'oratan, over b'lo tase. Ceux qui ne les écoutent pas, ils transgressent l'lo tase, etc. etc. Ve'echad dvarim shelamdu otam mipi ha'shmua, soit les choses qu'ils ont entendues, mais b'shmua ben Torah shebalpe, ça veut dire les choses qu'ils ont entendues de Moshe Rabbeinu. Soit les choses, les halakhot qu'ils ont entendues de Moshe Rabbeinu, il faut leur faire confiance et appliquer la Torah comme eux, ils ont dit. Eux, ils ont dit, Moshe Rabbeinu, il a dit qu'il faut faire un soukha, c'est marqué dans la Torah, et la soukha doit avoir une hauteur de 10 tfachim. Elle doit avoir minimum 7 sur 7 tfachim. Il faut plus de l'ombre que de soleil. Et le srach, il doit être quelque chose qui pousse par terre. Le srach doit être quelque chose qui était coupé du terre, par terre. Le srach doit être quelque chose qui n'est pas mekabel touma. Et dans la soukha, habiter dans la soukha, ça veut dire manger dans la soukha et dormir dans la soukha. Alors, tout ça, les Chachamim, ils ont dit, Moshe Rabbeinu nous dit ça, il doit leur faire confiance. Echad, varim shelam duotam et pi eshmo et Torah shebalpe, soit les choses qui étaient transmises, echad, varim shelam du mipi daatam, ou soit un chidouche qu'ils ont trouvé mi daatam, echad minamidot, chatoran nidreshet bahem, ils ont fait une dracha, un xirachava, un kalvachomer, ils ont arrivé à une conclusion. Venir et benehem shedavar ukach, et eux, ils pensent que c'est ça le pshat. C'est ça le din, et bien il fait confiance. Bechat varim sha'asum siag la Torah, et maintenant on arrive à ce que le docteur Hervé dit, et soit vis-à-vis des choses qu'eux ils ont instaurées, la sot siag, de faire une barrière, quand ils ont dit que quoi, qu'on n'a pas le droit de cuire du lait de vache avec un poulet, la Torah elle a dit qu'on n'a pas le droit de cuire du lait de vache avec la viande de vache, avec la viande d'agneau. Mais avec la viande des poulets, on a le droit. Mais Chachamim, Mishum Geder, ils ont fait un siag, où le Fima Shahashat Sricha Lekach, ou quand le moment a besoin, Ben Hagzerot, Veha Takanot, Veha Minhagot. Il y a trois choses. Il y a Gzerot, il y a Takanot, il y a Minhagot. Une Gzeira. Ça, c'est une Gzeira qu'on n'a pas le droit de cuire le lait avec le poulet. Ça, c'est une Gzeira. De peur qu'on va transgresser quoi? D'arriver à cuire du lait avec la viande. Maintenant, il y a un gzera le deuxième jour de Yom Tov Chutz La'aretz. C'est une gzera. Maintenant, il y a takana, qui n'est pas un gzera, une takana. On a fait une takana que quoi? On a fait une takana que quoi? Que il faut allumer les bougies de Hanouka. C'est une takana, ce n'est pas une gzeira de peur qu'on va transgresser. C'est une takana. Maintenant, il y a minhagot. Ils ont instauré des minhagim, comme par exemple, on frappe la Arava, le Hoshana Rabba. C'est minhag, minhag nevim. Ou dire Rosh Chodesh, le Halel Rosh Chodesh, c'est un minhag. Ou le deuxième jour de Yom Tov, à une autre époque. C'est un minhag. C'est aujourd'hui
la bilada des, avant la brit. La bilada, c'est un minhag.
J'ai pas entendu.
La bilada avant la brit mila.
La bilada, c'est pas, était pas instauré par les, par les Sanhedrin Agadol.
C'est coutume tunisienne, il mélange tout lui.
C'est pas le Bedin Agadol qui a instauré. Ici, on parle minhagim, les minhagim que le Bedin Agadol a instauré. Le Bedin Agadol a instauré des minhagim. Minhag Nevi'im, on nous dit, déjà de l'époque des prophètes, pas Medine Mevoua, à l'époque de construction du deuxième Etmikdash, dans le Knesset de là, ils ont instauré minhag de frapper la Arava le septième jour. C'est Minhag Nevi'im. Depuis l'époque de Nevi'im, il y a ce minhag. Alors, il y a Gzeirot, il y a Takanat ou Minhagot. כל אחד ואחד מאלו שלושה דברים מצוות עשה לשמוע להם. יען מצוות עשה דו לזקותי, לבדן הגדול. והעובר על כל אחד מהם עובר בלות השיער, הוא אומר, על פי התורה אשר ירוחה, sur la bouche, sur l'ordre de la Torah, כאו יבונת אונסיניה, אלו התקנות והגזירות והמנהגות, שירו בהם לרבים, כי דיזו פובליק כדי לחזק הדת ולתקן העולם. ורון פורסי לרליגיון, אפור, de taken haolam pour bien conduire la société. Val hamishpat asher yomru elo dvarim shilmedot min adin ba'achat min hamedot shetorah nidreshet lahem. Al hamishpat asher yomru, ça c'est une interprétation des midot de la Torah. Mikol hadavar asher yigidu lacha, zu hakabbala shekiblu ish mipi ish depuis Moshe Rabbeinu. D'accord. Alors,
vous avez dit que les,
ça contredit pas ce que j'ai dit,
sont des chachamim par des kalvachomer, ça c'est les chamim qu'on fait ça. Mais que c'est pas Moshe Rabbeinu qui a fait ça, toutes les déductions.
Ah, ça c'est une bonne question. Ici, le Rambam écrit que les chachamim, des fois, ils ont inventé une loi, ils ont trouvé une loi dans la Torah écrite. Alors, est-ce que Moshe Rabbeinu a reçu cette loi ou il n'a pas reçu cette loi? Alors, Bepashtout, Moshe Rabbeinu a reçu cette loi, mais il a été oublié. Et les Bedin, ils retrouvent. Le Psat Pashut, il est que quand Hachem a donné Moshe Rabbeinu la Torah orale, il a dit à Moshe Rabbeinu, écoute-moi, moi je te donne tout oral et tu vas le transmettre aux Juifs. Mais comme je sais que les humains sont capables d'oublier une loi, je te donne des allusions dans la Torah et je te donne les règles, Kalvachom, Exerasho, Abinyanav, etc. Et par ce biais, vous pouvez retrouver si vous oubliez quelque chose. Donc, il y a des choses qui étaient oubliées, mais on peut les retrouver par Kalvachom Abakzera Shava. Ça, c'est le Pshat Pashut.
Ça, c'est ce qu'il a fait Otniel Ben Knaz. C'est comme
ça. N'entends pas?
C'est ce qu'il a fait Otniel Ben Knaz.
Oui, ça fait Otniel Ben Knaz, et ça fait Rabbi Yossi Aglili, et ça fait Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael. Dans tous les chasses, tu as des limoudim. On veut connaître d'où on connaît cette halakha. Rabbi Akiva dit, je fais un gzera shava. Rabbi Shmuel dit, j'ai un kal vachomer. Rabbi Akiva dit, ton kal vachomer ne marche pas. Lui, il dit, un gzera shava ne marche pas. Donc, il fait binyanav. À la fin, on arrive à la conclusion et on décide. C'est les chachamim, des fois, ils ont cherché une halakha qu'on a oubliée. Et des fois, il y a des machloquettes parce que la Torah savait qu'il peut y avoir des machloquettes. Donc, si c'est des machloquettes, vous marchez après la majorité, vous vous cassez la tête. Après, quand vous voyez que les plus logiques sont comme lui, il dit, eh bien, vous le suivez.
Et ça, c'est mis la Torah à la fin ou c'est mis des Rabbanan?
C'est des interprétations de la Torah. Et donc, c'est indigne de la Torah.
Ça veut dire qu'il apporte un korban khatat s'il n'écoute pas ou bien il a fait juste un histoire des Rabbanan?
Pour ne pas écouter les chachamim, on n'apporte pas le korban khatat, chacham de la Manistana. Alors, maintenant...
Il a déduit de la Torah. Il a déduit de la Torah quelque chose qui a été transmis par Moshe Rabbeinu. Et donc, imaginons un lotassé. Il déduit ça, c'est un lotassé comme ça.
Alors, plus fort, j'entends pas mal. Rapproche-toi à ton truc.
Imaginons qu'il ait déduit. Il a déduit de la Torah. Ils ont déduit par les Khamim, ils ont déduit.
Et c'est un lotacé. Ce qu'ils ont déduit, c'est un lotacé. D'accord ? Mais c'est eux qui ont déduit. Ils se sont rappelés d'une halakha, mais évidemment…
Ah, ils l'ont redécouvert. Ils l'ont redécouvert.
Oui, mais est-ce qu'il va apporter quand même un khatat là-dessus ?
Si, par exemple, on a un safek, si a itéré une certaine graisse sur l'estomac, si c'est assur ou pas. D'après un, c'est si on mange un khayef karet, et d'après l'autre, c'est permis de manger. Et le Gouan nous raconte Rabbi Abba et l'Anvers Israël, dans un pays on faisait comme Rabbi Akiva, dans l'autre pays on faisait comme Rabbi Ishmael. Alors, les filles Rabbi Ishmael, ceux qui mangent Rabbi Akiva, Rabbi Kishon, Rabbi d'après un, l'autre, il est khayef karet s'il mange bemeizit. Et si après on verra que moi j'ai raison, il apportera un korban khatat. L'ichora. Mais peut-être, si Rabbi Akiva l'a dit, peut-être on n'apporte pas de korban parce qu'ils ont fait beheter, parce qu'il n'est pas un mishra midi à tout. Mais lui et Tsuya, que quelqu'un, pas un chacham, un simple, il va faire à sa tête, et après on voit qu'il se trompait. Imaginez que tous les chacham, ils sont d'accord sur quelque chose. Tous les chacham, ils sont d'accord sur quelque chose. Voilà, on va prendre un exemple. Mila d'Ochei Shabbat, ou Korban Pesach d'Ochei Shabbat. Alors, la Gemara nous dit que cette halakha a été oubliée. Comme pendant des décennies, des longues décennies, il y avait les guerres en Eretz Israël, ils ont massacré les chachamim. Alors, et jamais c'est tombé RP sur Shabbat. Après 50 années, 60 années, ils sont revenus. Il est venu en Eretz Israël pour Machazek Lidishkait. Et les Bnei Betera, ils étaient là. Est-ce que c'est d'Ochei Shabbat ou pas? Ça fait 50, 60 ans, on ne se rappelait plus. Plus personne ne s'est rappelé. Alors, ils ont dit, est-ce que c'est d'Ochei Shabbat ou pas? Alors, il a dit que oui. Ils ont dit, d'où vous savez, monsieur le rabbin, il a fait un kalvachom. Le Bnei Betera, ils ont refuté. Il a fait un xerashava, il a fait un binyanav, il a essayé à tout prix. Ils ont tout refuté. À la fin, il a dit, kach me kublani, mi pishma yev aftalion. Quand j'étais jeune, j'ai étudié shishma yev aftalion, ils m'ont dit que c'est d'Ochei Shabbat. Et après, là, comme on nous raconte, ils ont demandé à Hillel, et si on a oublié le couteau d'apporter Shabbat, comment on va porter le couteau? Il ne savait pas répondre. Et le lendemain matin, les gens ils mettaient leur couteau dans le mouton, dans la laine de mouton, et comme ça, ils ont monté. Et après, on s'est rappelé que quoi? Il a dit, en vérité, les Juifs, ils se rappelaient, oui, il y avait des vieux de 90 ans qui se rappelaient quand ils étaient petits, comme ça, ils faisaient, et c'est leur revenu. Maintenant, on va poser la question. Il a donc décidé, c'est d'Ochei Shabbat. Est-ce que Moshe Rabbeinu lui dit, c'est d'Ochei Shabbat? Vadaï. Moshe Rabbeinu dit que c'est d'Ochei Shabbat. Et les Juifs, ils avaient oublié 50-60 années de persécution des Chachamim. Ils ont oublié cette halakha. Et après, il a fait d'abord Kalvachomer. Ça aurait été suffisant. Si le Kalvachomer aurait été irréfutable, ils auraient appuyé. Ils auraient été Mechal Shabbat sur ce qu'il dit. Mais le Kalvachomer était réfuté. Alors il dit, j'ai encore un joker en main que j'ai reçu de Shmaï Beftalion. Dans ce cas-là, je ne vais pas obligé de dire quelle est la Shmaï Beftalion. Ils ont dit à la fin, moi je me suis dit, c'est comme ça, mais c'est là. On s'appuie sur Shmaï Beftalion. Maintenant, imaginez-nous une autre chose. Un Chacham, il va venir, il va dire Souka d'Ochei Shabbat. Ou comme par exemple Rabbi Lézer. Est-ce que le Marchir Mila d'Ochim était Shabbat? Rabbi Lézer, il pense préparer un couteau pour la Mila et repousse le Shabbat. Et Rabbi Lézer, il faisait comme ça dans sa ville. Les Chachamim, ils n'étaient pas d'accord. Maintenant, imaginons-nous que Rabbi Lézer, il n'aurait été pas Rabbi Lézer. Rabbi Lézer était un Amaretz. Un Amaretz, il va venir et va dire, même les préparer le couteau sur le Shabbat. Et moi, comme ça, moi, je dis comme ça. Et les Chachamim disent, non, monsieur, vous vous trompez, on n'a pas le droit. Il dit, il me semble qu'on a le droit. Et après, il le fait. Ou il n'a pas demandé les Chachamim. Un homme, il invente, il dit, voilà, marchir à Mila, c'est d'Ochei Shabbat, je pense que oui. Et il fait la Mila Shabbat. Et après, on va chez les Chachamim, mais non, vous êtes fous. Marchir à Mila ne repousse pas Shabbat. Et bien, dans ce cas-là, il doit apporter un korban. Si un homme, il se trompe, il fait un kalvachomer tout seul. Il n'est pas un Chacham et Chacham Israël. Il est l'Ohigi à l'Ohora. Il invente une halakha. Il lui semble comme ça. Et bien, il apportera encore un khatat. Mais si c'est Rabbi Lézer qui a dit, eh bien, il a le droit de faire, parce que lui pense que c'est un vrai kalvachomer ou un vrai limout. Il a le droit de le faire. Maintenant, quand Eli Nevi va venir, si Eli Nevi va venir et dire, monsieur, Rabbi Lézer, sachez, la halakha, elle est comme les chachamim. Mistaber, que Rabbi Eliezer n'apportera pas de Korban Khatat. C'est Mistaber comme ça. Parce qu'il avait le droit d'être pensé comme ça. Parce qu'un Chacham qui dit le roi, il dit quelque chose. Comme ça n'était pas voté au Sanhedrin. Si le Chacham serait réuni et au Sanhedrin, ils auraient décidé, Rabbi Eliezer, vous êtes mis en minorité. Nous fixons la halakha que c'est pas d'Oché Shabbat. Et Rabbi Eliezer ne veut pas écouter. Là, il a un din de Zaken Mamre. Il serait Chayamita. Mais les Chacham, ils ne se sont pas réunis au Sanhedrin. Ils n'avaient pas la possibilité de se réunir à Sanhedrin à cette époque. Donc, c'était les Chachamim. Qui c'est les Chachamim? Il y avait Rabbi Akiva avec Rabbi Ishmael. Ils ont dit non, pas comme vous, Rabbi Eliezer. Il y avait deux, trois Chachamim qui disent le contraire. Et les autres Chachamim, ils ne savaient pas. Quand on dit Machlok et Rabbi Eliezer contre Rabbi Yehuda, alors quoi? Alors quoi? Un contre deux. Et tous les autres Chachamim, qu'est-ce qu'ils disent? On ne sait pas. On entend l'un, on entend l'autre. On ne sait pas. Donc, on ne sait pas qu'est-ce que les Chachamim disent. Donc, ils ne peuvent pas aller au Lishkatagazit. Lishkatagazit, il faut avoir l'avis des 71 Chachamim. Si les autres Chachamim disent, on ne sait pas. Alors, ils ne comptent pas. Donc, on a un contre deux, on suit les deux. Donc, Rabbi Eliezer contre Chachamim. Chachamim, ça veut dire deux ou trois ou quatre. Il était contre Rabbi Eliezer, donc nous suivons les Chachamim. Alors, maintenant, je reviens ici à notre sugya. Qu'est-ce qu'on avait dit? Chachachum, ils ont oublié. Et ils ont retrouvé. Donc, le Kezaït était oublié. Le Shiur, Moshe Rabbein l'a reçu Shiur Kezaït. Et on a oublié qu'est-ce que c'est Shiur Kezaït. Et après, Rabbi Eliezer a dit un Knaz. Chazrou, Tiknum, c'est-à-dire Chachrou, Chazrou, Yazdoum. Ils ont retrouvé, jusqu'à ce que les gens ils se sont rappelés, oui, c'est vrai que c'est le Shiur Kezaït. Et après, Yazdoum, ils ont fixé la halakha. Que c'est Kezaït. Voilà. A sauter Melolukmov. D'ailleurs, j'ai vu un grand chidouche pendant Yom Tov. C'est Atsum Nifla Mod. Mod Nifla. C'est une. Je me suis toujours posé la question. Et on dit que Rebbe, il avait Shisha Sidre Mishnah. Et en vérité, la Gemara nous dit que Hillel Azaken, il avait 600 Sidre Mishnah. Comme ça dit le Tshuva Tagonim. 600 Sidre Mishnah. C'est-à-dire que Rebbe il a raccourci. C'est-à-dire, dans un Seder, il a mis. C'est-à-dire, tous les Braïtot. Chez Hillel Zaken, il y avait beaucoup, 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 beaucoup de Braïtot. Mais toujours 600. Pourquoi 600? Pourquoi pas 700? Pourquoi c'est le chiffre 6? Ça veut dire, ce que chez Hillel était 100 fois plus, chez lui, c'est donné un Seder. Parce qu'il a raccourci, il a pris que l'essentiel, le Seder. Mais toujours 6. 600. Alors, je vis dans le Midrash et ça ressemble un petit peu. J'explique tout de suite. Dans le Tanakh, dans Sefer Shoftim, il a marqué sur Atniel ben Knas, Sofrim. Sofrim, Yoshve Yahavetz. Sofrim, Taratim. Il y a un pasouk là-bas dans Sefer Shoftim. Sofrim, Yoshve Yahavetz. Les copains de Yahavetz, de Otim Ben Knas, Sofrim. Pourquoi il s'appelle Sofrim? Tu peux dire parce qu'il écrivait des sifres Torah. Sofrim, c'est Melachon, Sofer. Il écrit un sifre Torah. Mais le Tshuva Tagonim, il dit Sofrim. Shayu Sofrim Otiot Sheba Torah. Il comptait les lettres de la Torah pour pas qu'elle sera oubliée un mot. Ils comptaient combien de lettres il y a et ils ont mis dans un registre. Ça doit être comme ça. Et plus que ça, Shayel Sofrim Halachot Sheba Torah. Ça veut dire quoi? Par exemple, la première Mishnah de Mesechet Yevamot. Chamesh Esrei Nashim Potrot Tzoratem Vetzorat Tzoratem Atzof Kol Hadorot. Il y a 15 femmes qui rentrent pas tour les Tzorot de Yibou. Meseder. Qui a dit qu'il y a 15? Qui a donné ce chiffre? Ou par exemple, il y a Mishnah dans Maseret Trumot. Chamisha lo yitromu, vim tarmu terumatan truma. Il y a 5 personnes qui n'ont pas le droit de prélever la truma. S'ils ont prélevé la truma n'est pas valable. Qui a donné ce chiffre 5? Pourquoi on a donné ce chiffre 5? Pour se rappeler, pour que ce ne soit pas oublié. Ça veut dire qu'il y avait une collection. À un certain moment, il y avait une collection des halakhot pour que la Torah orale ne soit pas oubliée. Les Chacham, ils avaient tout dans la tête, mais ils faisaient des groupes. Chamisha lo yitromu, il dit, les Tshuva Tagonim, marqué dans le Mavot, le Talmud, après le Sefer Barachot, tout de suite au début, que Shayu, Sofrim, les halachot, le Moshe Sinai, la Torah orale a été mise en groupe. Ils ont groupé les choses, ils ont mis des bases. Alors, Chamisha lo yitrumu, comme ça, les chiffres des halachot, c'est pour aider à la mémoire. C'est pour ça qu'on les appelle sofrim. Maintenant, ce Yontov, j'ai vu un chidouche dans Medrash Rabbah, dans Parshat Nasso. Parshat Nasso, il se trouve pour l'inaugure, ration du Mishkan. Donc, il y avait 12 présidents qui apportaient, chaque président des tribus, il apportait des korbanot. Alors là-bas, il est marqué dans le Medrash que déjà, à cette époque, Moshe Rabbeinu a fait, comme ça, il marche dans le Medrash, pas marqué le fourrage, mais c'est, ça sort de ce Medrash, il a fait une première classification de Torah orale. Et il les a groupés en 6, en Shisha Sidrei Mishnah. Le chiffre 6 de Moshe de Rabbi, il a fait Shisha Sidrei Mishnah, c'est regrouper les enseignements de ceux qui étaient transmis avec les chidushim qui étaient donnés par l'Etanaïm au fur et à mesure. Mais la base, tout vient de la Chana Moshe Mishinaï, et Icar, avant, sauf les Takanot qui étaient ajoutés. Et Moshe Rabbeinu, il a classifié Shisha Sidrei Mishnah. Et c'est pour ça, les chefs des tribus, comment c'est marqué là-bas? Je ne me rappelle pas sur quel passage que ça se rapporte. En tout cas, il est match, mais à leur époque, Moshe Rabbeinu, tout de suite, j'ai reçu la Torah orale, on va la classifier en 6. On va faire de ça 6 Yesodot. Et après, ça donnait 600, et après, Rebbe, il a fait à 6. Voilà, on va continuer. Quelqu'un m'a demandé, je ne sais pas si vous avez vu sur WhatsApp. Vérité, j'ai écrit la réponse très béquille de son imrat. Quelqu'un, vous avez vu peut-être, je ne me rappelle pas si c'était vendredi ou c'était l'éveil de Yom Tov. Comment la Haggadah chez le Pesach? Ah non, c'est dans Shalchelet, là, Jérémie. Dans le Shalchelet qu'il a envoyé, RF Yusukot, il a envoyé RF de septième jour de Pesach, il a envoyé le truc, le Shalchelet. Comment la Haggadah chez le Pesach, elle a été? Qui est-ce qui a fabriqué? Pourquoi nous avons le même? Et comment nous avons tous la même Haggadah? Alors, je parle du Sidour de Rav Amram Gaon, que la communauté de Barcelone, ils ont envoyé au 8e siècle, au 9e, 8e siècle, ils ont envoyé à Rav Amram Gaon, le Gonim de Babylonie, et lui, il a envoyé le Sidour. Pas sur la Haggadah, tous les Sidour. Et après, c'était distribué, on voit que Rashi avait les Sidour de Rav Amram Gaon, le Rambam, il avait la Haggadah, et le Rambam, etc., etc., tous les Rishonim. Alors, en vérité, c'était très bekitsour. Mais avant que c'est arrivé chez Rashi, le Sidour de Rav Amram Gaon, Rabbeinu Gershom de Mayence, qui était 100 années avant Rashi, 150 années avant Rashi, lui, comment lui, il a prié? Lui, il venait d'Italie. Il venait aussi de Babylonie. Mais tous les Juifs, ils ont toujours prié ça. Lui, il a écrit le Sidour de Barcelone. Il n'a que confirmé ce que les Juifs, ils ont transmis, en tout cas les Chachamim. Les Chachamim dans chaque génération et le public autour des Chachamim. Ça, c'est les Tfilat qu'on faisait en Babylonie. Tous les Juifs qui sont partis en Babylonie, ils ont apporté les Ayot Serov, les Recherot, les Shomer, Havat Olam, les Zebrachot, tous les Minagim. Le Sidour, il a écrit, mais ça confirmait ce que tous les Juifs, ils savaient. Maintenant, il y avait peut-être des communautés qui ne savaient plus comment on prie. Ils ne se rappelaient que de la matière de l'Amida, peut-être avec de la Maratim. Mais les Juifs, avant qu'ils avaient l'écrit, ils avaient l'oral. Les Juifs, ils savaient qu'on fait les Shomer, les Shomer, les Shomer. Ça ne fait que confirmer. La Torah, elle est passée. La Torah, elle est passée. Il faut comprendre. Hein? Le Rhône, il a quelle largeur à Paris? Quelle largeur il a à Paris, le Rhône?
C'est la Seine. Le Rhône, c'est à Lyon.
Aïe, aïe, aïe. Où je suis, moi? Moi, je suis. J'ai le petit Rhône à Sarcelles. Alors, la Seine à Paris, elle a quelle largeur?
Ça dépend les endroits.
Voilà, à Paris, c'est combien?
Euh... 40-50 mètres.
Non, plus. Ah, haha, mais non. Ah, il y a bien plus. Quand ça, c'est une fois que ça rejoint après, beaucoup plus. Qu'est-ce que tu racontes, ça? Qu'est-ce que tu racontes, ça? Au moins 200 mètres. Au moins 200 mètres. Alors, quelle profondeur est là, le Seine? 8 mètres. Alors, 8 mètres sur 200 mètres, c'est combien d'eau qui coule par seconde? Plus que nous buvons par jour, oui? D'accord. Alors, il y a beaucoup d'eau. D'où vient cette eau? De la source. Mais à la source, c'est 2 cm largeur. Mais il n'y a pas qu'une source. Il y a des milliers de sources. Il y a des milliers d'affluents. Il y a des petites rivières. Et les petites sources, il vient plus grande et plus grande après votre sourcime. Et ça, la Seine, elle vient, je ne sais pas où, dans beaucoup d'endroits, il y a des millions d'affluents. À la fin, ça donne la Seine. La tradition juive, mettons que le Sidour, maintenant nous avons aujourd'hui le Sidour Amram Gaon, mais ça, c'est le Sidour qu'il a écrit. Mais la mémoire du peuple juif, ça venait par tous les centaines de milliers, tous les millions des juifs qui venaient. Chacun, il avait la même tradition. Alors, des fois, il oublie un mot de plus, un mot de moins. Alors, donc, on a suivi après les sciences de Rav Amram Gaon. Mais le lit de toute cette filote et de toute la tradition juive, de toute la religion, c'était tous la même. Les juifs faisaient tous Rosh Hashanah et Yom Kippour. Comment? En 8e siècle, il y avait un chacham en Espagne, Rabbi Chesdaï ibn Chaprout. Lui, je ne sais pas s'il avait la Gemara écrite, mais il avait la même Torah que nous. Et ils avaient des yeshivot là-bas, ils enseignaient la même Torah. Avant la Torah écrite, la Torah orale, les juifs éparpillés partout, ils avaient tous la même Torah. C'est un phénomène spécial, le peuple juif. Le peuple juif, il est hors catégorie. Hors catégorie que des milliers de juifs connaissaient le chasse et ils ont fait la tradition, ils ont perpétué la tradition. Et même le simple juif, il avait accès à ça. Même ceux qui n'ont pas la Gemara, sinon en Tunisie, il y avait des juifs qui n'ont pas de la Gemara, mais ils faisaient le Pessah avec la Matzah, les Maror, on savait exactement. On ne savait pas où exactement, mais on faisait les Karpas et les Arats. Et on était des mamans, ils savaient aussi, c'est comme ça qu'on fait Pessah avec Kippour, on fait Rosh Hashanah, sans le Shofar. Même ils n'ont jamais vu un Shulchan Aruch. Il y avait des rabbanim qui enseignaient, on a traduit du père au fils, toute la Torah. Comme ça, c'était toujours transmis. Et même dans des villes où il n'y avait pas beaucoup de Chachamim, c'était transmis. Plus forte raison. Toujours il y avait des chachamim, toujours des rabbanim, on était accompagnés. Et depuis qu'on a l'écriture, c'est plus facile parce que l'écriture, avant c'était oralement. Alors, on va revenir. C'est très spécial. Ceux qui ne vivent pas dans le peuple juif, ils viennent de l'extérieur, il est plein. Mais quoi? C'est vrai que cette histoire de Moïse Rabbeinu, vous êtes passé la mer Rouge. Mais qu'est-ce que c'est dire? On a inventé une histoire, on n'a jamais inventé quelque chose, c'est les juifs. Et bien sûr, on est passé dans le Yam Souf. Mais ce texte-là, d'où vous le connaissez? Mais ce texte-là, on meurt pour ce texte-là. Depuis 3300 ans, on meurt pour ce texte-là. Oui, c'est comme ça. Il n'y a pas un mot de plus dans la Torah. Il n'y a pas un mot. On est mort pour ça. Et nous, tous nos parents, nos grands-parents, tous les peuples juifs, il a fait ça. Oui, on n'a pas mangé Hametz, on a mangé de la Matzah. Et on a eu un Chayef Karet pour ceux qui mangent Hametz. Bien sûr, c'est comme ça. Ils ont fait nos parents que depuis qu'on est sorti d'Égypte. Qu'est-ce que c'est ces nouveaux sceptiques et archi-sceptiques? Ils ne connaissent pas, ils savent. On a un peuple juif, on a inventé une histoire, on a des nouveaux religieux. Mais où, quels nouveaux religieux? Quels nouveaux religieux? Des nouveaux laïcs, ça existe, ce n'est pas des nouveaux religieux. Alors, on en sommes. Il y a peut-être des fois quelqu'un nouveau, pas le toi, qui fait un peu exciter, là, un peu des histoires. Mais le peuple juif ne laisse pas embrouiller. Le peuple juif, on sait qu'est-ce que c'est la Torah, qu'est-ce que c'est le judaïsme. Des fois, il y a Mina qui vient, quelqu'un croit que c'est Allah, la Moshe Sinaï. C'est un Mina d'un petit village. Mais on ne se trompe pas, on sait qu'est-ce qui vient de la Torah, qu'est-ce qui vient de Chachamim, qu'est-ce qui vient du Mina d'une ville. On n'est pas bête, le peuple juif, il ne se trompe pas. Alors, Hashotem Melolugmaf. Ceux qui boivent Melolugmaf, on continue. Hashotem Melolugmaf. C'est quoi shoté? C'est un fou?
Celui qui boit.
Ah oui, je vais shoté.
Ça ne s'écrit pas pareil.
Ouais, ça ne s'écrit pas pareil, oui. Hashoté Melo Lugmaf. Un homme
qui boit Yom Kippour, c'est un vrai fou.
Hein?
Si boit Yom Kippour, il est un peu fou.
Ou bien malade.
Alors, achetez melo lugmav. Un homme qui boit melo lugmav. C'est quoi melo? Melo, c'est pleine. Lugmav. Ça vient de quel mot lugmav? Ça vient du mot legima. Legima, c'est une gorgée. Lugmav, c'est une gorgée. Melo lugmav, ses gorgées sont pleines. C'est quoi une gorgée? Ce que tu mets dans la bouche. Ou pour la nourriture, on dit comment? Une bouchée. Voilà, une bouchée. Combien de pain tu manges? Je mange une bouchée de pain. Combien c'est une bouchée de pain? On avait vu c'est que beitza. On avait dit que le betablia marzik que beitza. Comme ça, on avait vu une bouchée de pain, ça veut dire un kebetsa. Maintenant, il y a une gorgée. Il boit une gorgée. Melo lugmav. Amaraviuda ma Samuel. Lo melo lugmav mamash. On ne veut pas dire la bouchée remplie de liquide. Ce n'est pas ça le sens. Et là, kol she ilu yesalkenu le tzad echad vire e melo lugmav. S'il va le mettre vers un côté, on dirait que la bouche est pleine. Alors moi, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire. D'abord, il y a dans la Gemara, melo lugmav mamash. Après, il y a quelque chose qui n'est pas mamash, mais qu'on met sur un côté et ça ressemble. Alors, qu'est-ce que c'est le mamash d'abord? Le roi la mamash, c'est qu'un homme, il va se coucher, il va ouvrir la bouche, et il va verser sur la bouche du liquide jusqu'à toute la bouche, il est plein du liquide. C'est ça la traduction littérale. Melo, lugmav, ce que sa bouche peut contenir. Seulement, si tu mets ça dans la bouche, il aura du mal à avaler. Si tu es debout, on peut pas, en principe, on ne peut pas faire melo, lugmav si on est debout. Il faut être couché, remplir la bouche et fermer la bouche. Ça, c'est le shiur melo, lugmav. Maintenant, Shmuel dit non. Il dit, l'homme le lugmav mamash. Ne t'imagine pas que Kippour en échappe seulement si tu bois le liquide qui remplit tout. Et là, kol she ilu. Ilu, c'est quoi ilu? S'il avait, yesalkenu le tzad echad, si la quantité de liquide qui est dans sa bouche, s'il avait yesalkenu, il aurait poussé le tzad echad vers un côté, c'est-à-dire un joue, vira et ce serait vu kim lo lugmav comme si la bouche avait été pleine. Quel est le sens de ça? Oui, docteur. Docteur, j'entends pas, Eric. Oh, voilà.
Excusez-moi. Vous avez utilisé le mot gorgé tout à l'heure. Alors gorgé, c'est là. Et mélolougma, vous peut-être que en.
Alors je retire le mot gorgé. Je retire le mot gorgé. Le guima, ça veut dire une petite buverie. Le guima, j'enlève le mot gorgé. Alors qu'est-ce que le mot veut dire? Il pousse le liquide vers une joue et ça ressemble kim lo lugma. C'est-à-dire quoi? L'autre joue, il est gonflé pour l'air. Est-ce que le pshat il est? Est-ce que Bechlal c'est cher que je mette toute l'eau dans une joue et l'autre joue est vide? Est-ce que ça existe? Ça n'existait pas. C'est pas possible.
C'est tout à fait possible qu'au milieu il y ait un certain volume au milieu. Et si je mets dans la joue droite ou la joue gauche, et ben c'est la même quantité qui est au milieu. Et c'est comme ça que je sais ce que c'est que la quantité.
Alors, c'est peut-être... alors, on va essayer. Tu remplis ta bouche avec la moitié. Tu remplis ta bouche à moitié. Et après, mettre cette eau dans la joue gauche et pas dans la joue droite. Dis-moi, si tu es capable de le faire, je te paye une pizza.
Voilà, j'arrive. Je vais essayer tout de suite.
Lénéder, ça me coûtera une pizza. Waouh.
La joue, elle est élastique, la joue.
Eh, hey, ça marche, je ne paye pas de pizza. Attendez, ça marche.
Ça marche parce que la joue, elle est élastique. Tu pousses un peu, c'est bon.
Hein, qu'est-ce que tu dis, Sergios?
j'ai rempli la bouche. Et après, quand je mets dans la joue, au contraire, moi, j'ai trouvé qu'il y a moins, dans la, il y a moins d'eau quand je remplis la joue. Ça, elle est un peu vide.
Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu as dit?
J'ai rempli le milieu de la bouche.
Ouais.
Après, je mets dans la joue. Et bien, la joue, quand je l'ai gonflée, il y a un peu de vide dans une des joues. Donc, ça veut dire que ce que j'ai mis au milieu, j'ai l'impression que c'était moins.
Alors, si maintenant, est-ce que tu peux remplir la bouche entière et après mettre un côté? Est-ce que c'est possible? Mais pour remplir la bouche entière, il faut que tu te couches. Mais avant le pas, ne te étouffe pas, Rassou Shalom.
Je vais remplir la bouche entière.
Mais fais attention, ne t'étouffe pas, hein?
S'il est rempli, il peut plus bouger. Après, la bouche, elle est remplie, puis il ne peut rien faire après, si elle est remplie complètement.
Si on remplit le volume d'eau dans les deux joues, comment on peut faire passer tout ce volume-là dans un côté?
C'est ça que dit le docteur l'assureur. C'est exactement ce qu'il dit. Ce n'est pas possible.
Mais pourquoi vous voulez vous coucher? Je n'ai pas compris quel est l'intérêt de se coucher.
Parce que si tu restes assis remplir. Comme tu es maintenant, tu ne peux pas remplir toute la bouche de l'eau. Comment tu veux remplir?
Avec une paille ou comme ça.
Mais à remplir jusqu'en haut, ça va sortir par la bouche. Que polo carpolto, ça va, là où tu rentres, ça va sortir.
Non, mais si on remplit toute la gorge, après qu'on met sur le côté, c'est-à-dire qu'il y a les joues qui sont creuses, eh ben on peut remplir sur le côté. Moi, j'arrive à remplir, mais là, c'est un peu plus. J'ai rempli aussi une demi-joue de l'autre côté. Je sais pas. Toute l'eau qui est dans la bouche, on arrive après à gonfler les joues pour avoir plus de volume. Parce que quand on remplit, la langue, elle se baisse.
Regarde, je le fais avec l'air. Je fais avec l'air. Je remplis les deux joues pleines d'air et je pousse une joue pour pousser l'air l'autre joue. Et bien, ça sort par la bouche une partie. Obligé.
Mais non.
Essaye. Remplis les deux joues pleines d'air et après pousse.
Oui, parce que vous poussez fort. Mais si je ne pousse pas fort. Non.
Tu moi, pousses ça ici, l'air va sortir par la bouche. Ce n'est pas possible, Chacham.
Il l'a fait avec la bouche. Il a dû le faire avec la bouche.
En tout cas, il y a une certaine élasticité, incontestablement. Il y a une élasticité.
Essayez de remplir de l'air et poussez à un côté, il y a de l'air qui sort par la bouche. Obligé. Faites-le.
Quand on met de l'eau dans la bouche, la langue, elle se baisse et ça me donne un certain volume. Et bien, ce volume, on dirait qu'il est plus petit que les deux joues entières.
Allô?
Bon, je ne sais pas comment on traduit la Gemara, je ne sais pas. Alors, on va continuer. C'est pas la bouche pleine, c'est moins que la bouche pleine. Est-ce que la Gemara veut dire la moitié? La Gemara, elle aurait dû dire la moitié de la bouche pleine. Ça veut dire quoi? Un homme qui a une grosse bouche. Ou une petite bouche. C'est pas la même chiour. Ici, il n'y a pas un chiour. Ici, c'est individuel. C'est pas comme les kezaït ou comme kotev. Donc, on est dit pour la nourriture, c'est kotev. On a fait déjà l'histoire de Ogmel le Chabashan. On a déjà fait. On n'a pas encore fait ça. Ah oui, ça arrive maintenant. En tout cas, pour la nourriture, c'est. On verra après la Maskanata Soubia. La nourriture, c'est pour tous les gens la même. Un homme, il a une grosse bouche, une grosse ventre, un petit ventre. C'est pour tout le monde les chiots côté bête. Mais par contre, pour le liquide, c'est individuel. Un homme qui a une grosse bouche, eh ben, il n'est chayav que s'il boit beaucoup d'eau. Un homme qui a une petite bouche, eh ben, il est chayav Yom Kippour pour une petite quantité. C'est à quoi remplir melol ugmav. Maintenant, melol ugmav, c'est-à-dire la moitié des deux joues, c'est un jour. Parce qu'il y a trois choses dans la bouche. Il y a la bouche qui gonfle, la joue qui gonfle, et l'autre joue qui gonfle, après le milieu. Maintenant, quel est le chiour, quel est le sens de la Gemara?
La joue, elle a une grosse épaisseur, la joue.
Elle a une grosse
épaisseur.
Oui.
Ça veut dire une épaisseur qui est élastique.
Oui.
C'est donc en réalité, on a tous la même quantité peut-être.
Non, non, non. Vous avez vu Og Melakha Bashan sur la photo? Non, vous n'avez pas vu Gulliver. Vous avez vu Gulliver dans les...
Avec les nains, oui.
Comment il s'appelle Gulliver avec les...
Lilliputiens.
Lilliputiens. Avec les Lilliputiens. Ou les Gargamel avec, comment il s'appelle? Les Schtroumpfs. Vous connaissez les Schtroumpfs avec Gargamel?
Ouais.
Alors, les Schtroumpfs et Gargamel, c'est pas la même. L'Olugmav. Og Melakha Bashan avec... Og Melakha Bashan avec un simple juif, c'est pas la même. Non, c'est marqué sur Khanor, ça dépend de chacun. Melo Lugmav, la Mishnah nous a pas donné un chiou comme Kezaït Kebetsa. C'est Melo Lugmav. On va dire la Gemara. Alors, la Gemara pose une question. On va à Nantnan. Mais nous avons vu le Log Lugmav. Comment tu peux dire c'est pas vraiment Melo Lugmav, c'est marqué dans Mishnah Melo Lugmav? Eh, mais il faut corriger Kim Lo Lugmav. C'est comme si c'est Melo Lugmav. Comme. C'est une façon de parler. Comme si c'est Mlouloukma. Alors, Meitve, on pose une question. Kama yishte bihei chayav. Combien il faut boire kippour pour être chayav?
Mais qu'est-ce qui est plus? C'est la, qu'est-ce qui est plus? C'est la joue ou bien c'est Mlouloukma?
Je te dis que je ne sais pas traduire la Gemara. Je ne sais pas traduire. La, ilu si yesalkenu. Si il va mesalek, ça veut dire il va bouger le liquide, le tzad echad, vers un côté, veyeirae kimlo lugmav. On dirait qu'il a les, la bouche pleine. Je ne sais pas traduire, non, je ne sais pas quelle est la traduction. Alors, Metve, on pose une kusha. Combien il faut boire pour être chayav? Bet Shemay omrim revit. Bet Shemay dit c'est un revit. Ah, c'est un chiot clair, un revit. Ou bet ilel omrim, melo lugmav. Rabbi Yuda omer mishum Rabbi Lezer. Rabbi Yuda dit le nom de Rabbi Lezer. Kim lo lugmav. Pas melo lugmav, mais kim lo lugmav. Donc il y a trois avis. Rabbi Yuda ben Betera omer, un quatrième avis. Kedei gemia. Kedei gemia. Gemia, normalement, ça veut dire la quantité qu'on avale en un coup, une gorgée. Ce qu'on avale d'un goût, d'un coup. Donc nous avons quatre avis. Donc, quelle est la kusha de la Gemara? Ici, Bet Hillel dit Melo Lugmav. Et Shmuel dit pas Melo Lugmav. Alors, Shmuel est contre Bet Hillel. Alors, on nous répond, Miadi Femi Matnitin, Dokim ne Kedeshire, Achanama Kedeshire. Alors, la Gemara répond, Bet Hillel, il est comme dans notre Mishnah. Dans notre Mishnah, c'est marqué Melo Lugmav. Et nous avons interprété comme s'il faut bouger l'eau vers une joue. Eh bien, Bet Hillel aussi, c'est ça qu'il voulait dire. Quand Bet Hillel dit Melo Lugmav, il veut dire la même chose que notre Mishnah. Yachahainu Rabbi Lezer. Alors, dans ce cas-là, c'est la même chose que Rabbi Lezer. Rabbi Lezer dit « Kimelo Lugmav » comme « Melo Lugmav » mais pas « Mamash Melo Lugmav ». Alors, où est la machoket Bet Hillel avec Rabbi Lezer? Et que Benayo, il y a une différence « Melo Lugmav » d'Achouk. Est-ce que c'est le « Melo Lugmav » serré? Est-ce que c'est serré ou pas serré, Rashi? Le Bet Hillel, « Melo Lugmav » d'Achouk, le Bet Hillel, « Ba'inan Kedish » il faut voir le Melo Lugmav largement. Ou le Rabbi Lezer, que Melo Lugmav d'Achouk, serré. Qu'est-ce qu'il est plus, qu'est-ce qu'il est moins? Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est serré. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est.
Ben c'est serré, c'est moins. Kim Lo Lugmav, ça ressemble à comme si qu'il avait la bouche pleine, mais il n'a pas la bouche pleine, donc c'est moins.
Mais même Bet Hillel n'a pas la bouche pleine. Même Bet Hillel, c'est Ilu Yisalken ou le Tzad Echad. Les deux, c'est pas Kipshuto, mais c'est on pousse vers un côté. Mais d'après un, on pousse un peu plus. D'après un, on peut pousser un peu moins. Choral et Firabelez, on pousse un peu moins. C'est un peu moins. Matkif la Raboshaya. À la Raboshaya, il pose une kushia. Imken. Si tu dis le Pshat dans Bet Hillel, et c'est pas Mamash Melo Lugmav, ça veut dire. J'ai expliqué la question de Gemara. Si le melolugmav c'est kipsuto, c'est la bouche pleine. Si c'est la bouche pleine, c'est plus qu'il revit. Bet Shamay le dit revit, et une bouche pleine peut contenir plus qu'un revit. Donc Bet Shamay il est machmir et Bet Hillel il est mekil. D'après Bet Shamay, on est chayav même si on ne boit qu'un revit. Et d'après Bet Hillel, on est chayav seulement si on boit plus qu'un revit, parce que la vraie bouche pleine, c'est plus qu'un revit. Maintenant, toi, tu dis que Bet Hillel, il dit non. Bet Hillel dit moins, c'est kim lo lugmav. Donc, c'est moins qu'un revit. Alors, si c'est moins qu'un revit, nimsa que Bet Hillel, il est machmir. Il rentre chayav plus vite que Bet Shamay. Mat ki va Rabo Shai, Rabo Shai demande imken d'après ton pshat. Avalei mikou le Bet Shamay, mechumre Bet Hillel. Donc, Bet Shamay, il est mekil. Il dit, on est chayav seulement si on boit un revit. Et Bet Hillel, il est machmir, mais moins qu'un revit. Alors, et ça c'est une kushia, pourquoi ça n'est pas marqué dans la Mishnah de Idiot où est énuméré tous les chumrot des Bet Hillel, chez Hillel sont énumérés, lisons Rashi. Imken de le Bet Hillel mechay bekidei salkenu, si le fait Bet Hillel on est chayav bekidei salkenu, avale batsir mi revit, alors c'est moins qu'un revit. Va avale mikou le Bet Shamay, donc Bet Shamay le mekil, velitnaï be mesechit Idiot, donc ça aurait dû figurer dans la Mesechet Midiot, Rabbi Kou le Bet Shamay, Bishkulan Shenu Yotcham, tous les Machlok et Bet Shamay et Hillel, il y a une vingtaine de Machlok et Bet Shamay et Hillel, et ils sont énumérés dans Mesechet Midiot. Et cette Mishnah n'est pas énumérée. Comment ça s'est fait? Mais voilà, ici, la présence de Shmuel, Bet Hillel, il est Machmia. Alors, le Gemara nous répond, Amal, il a répondu, Ki Itchal? Ki Itchal? Beogmel Chabashan Itchil. La question qui était posée avant, on ne parle pas d'un homme normal. On parle de Ogmel Chabashan. Ve havole Bet Shamay le Chumra. Quand on avait dit Melo Lugmav, on parle de Ogmel Chabashan, qui a une bouche beaucoup plus grande. Et chez lui, on avait dit, ce n'est pas la bouche pleine, c'est un côté. Et un côté, chez vous, Ogmel Chabashan, c'est plus qu'un revit. C'est pour ça, dans la Mishnah d'Iyot, on n'a pas cité.
Mais excusez-moi, ça renforce le problème, ça aggrave la question. Parce que même la moitié de la bouche de Ogmel Chabashan, c'est plus qu'un revit. Donc on n'a pas rétabli l'avantage de Hillel sur Bet Shamay.
Puis Bet Shamay, on est Mahmir. Bet Shamay dit qu'on a chayav avec revit. Même Ogmel Chabashan, il a chayav revit. Ibet Hillel dit, Ogmel Chabashan, il est chayav seulement Melolukmav, qui est plus que Revit. Donc, Bet Hillel, il est Mekil. C'est pour ça, dans la Mishnah, on n'a pas dit ça. Rashi. Kitchil bebe midrasha hach telel kama yishtebeye chayav. Quand la Mishnah, dont Idiot, elle a parlé combien il faut boire, il est Ogmel Chabashan, klomar linien anak, Adam Anakim. Parce que Ogmel Chabashan n'était pas juif, était goy. Et donc, il n'a pas de dîner de Yom Kippour. Quand on a dit Ogmel Chabashan, on ne parle pas de lui, on parle d'un homme comme Ogmel Chabashan. Adam, qu'on a fait un homme grand, Itchel Bahavale Bet Shamay le Chumra, de Mechaïm et Berevi. Alors, le Gemara pose une question, Mat, que le Rabzeir. Alors, Rabzeir demande, Maishna Achila, pourquoi vis-à-vis de la nourriture? De Kol Chad Bechad Bepekotebet. Chaque homme, la mesure, c'est une date. Que l'homme, il sera grand, il a un grand estomac ou un petit estomac. Toujours, tu dis, c'est une date, c'est le shiur. Ou maïshna shtiya de kol chad bechad bididei. Et pourquoi pour la boisson, tu dis chacun mesure après sa bouche? Avant les abayes, abayes l'ont répondu. Alors là, il faut demander les docteurs diététiciens. Ça existe des docteurs en diététique? Ça, il faut leur demander. Avant les abayes, kimlou le rabbanan. Les chachamim, ils ont un principe. Bepa kotebet. Pour une date. De Behachi Miat Vedaite. Ça calme. Quand tu manges le volume d'une date, ça te calme la faim. Batsir Miachi, l'omiatvi. Moins qu'une date, ça ne calme pas. Et ça ne change pas si tu augmentes la Chabashan, si tu es un homme simple. Pour calmer, il faut une date. Puis il y a, mais pour la boisson, Bedidei, avec sa bouche, son malolugmav, Miat Vedaite, il se calme. Et de Havre, si c'est la bouche d'une autre personne, pas ma mesure, un homme qui est plus petit, l'homme y a tué daté. Ça ne calme pas. Alors, c'est un phénomène psycho, je ne sais pas, psycho, physique.
Non, un morceau de sucre. S'il y a quelqu'un qui se sent mal, vous lui donnez un morceau de sucre, qu'il soit grand, petit, c'est la même chose. Il se sent mieux. Je ne sais pas si c'est précis ce que je dis, mais en tout cas, j'ai vu le phénomène.
Regarde, il y a du sucre quand tu donnes, quand tu manges du sucre ou tu peux boire du Coca-Cola, tu bois du sucre. Quand un homme il fait un malaise, il fait une hypoglycémie et tu donnes du sucre, ouais. Est-ce que ça change? Est-ce que tu amènes le sucre à titre de dur comme un sucre ou est-ce que tu amènes le sucre liquide comme le Coca-Cola? Est-ce que ça change quelque chose vis-à-vis de l'hypoglycémie?
Sous la langue, ça absorbe beaucoup plus vite, si ça passe sous la langue.
Alors,
dans le corps.
Tu mets un sucre dur sous la langue.
Ça va plus vite.
Ou tu mets du Coca-Cola sous la langue.
Ça va. C'est le Coca-Cola, puisqu'il est déjà liquide.
Je te prends une couche, là. Si un homme a hypoglycémie, tu as besoin d'un ajout de sucre. Tu dois lui ajouter du sucre. Tu ajoutes une certaine quantité de sucre, les types, ils se sentent mieux. Je demande, est-ce qu'il y a une différence si cet apport du sucre vient liquide ou solide?
Kif-kif.
Non, le sucre, il a un temps pour fondre et pour s'assimiler sous la langue. Mais directement le Coca-Cola, le sucre.
Et le sucre, il est plus concentré. Dès que tu vas le mettre dans la bouche.
Donc ça va plus vite. Bien sûr, ça va plus vite.
Ici, la Gemara dit, écoute, qu'est-ce que la Gemara nous dit. D'abord, la Gemara ne parle pas de sucre. On parle de l'eau aussi. Il ne s'agit pas d'un apport de sucre, Bechlal. Parce que ceux qui boivent de l'eau, aussi, la Gemara, qu'il n'y a pas de sucre. Il s'agit du liquide. L'homme, il souffre du liquide, du manque de liquide, et il souffre du manque de nourriture. Et si tu mets une sucre ou tu mets une banane ou n'importe quoi dans la bouche, avec sucre, on met un champignon où il n'y a pas de sucre dedans. Ceux qui mangent un champignon, il met dans la bouche et il mâche. Et après qu'il a mâché, il avale, ça rentre dans le ventre. Et s'il boit, il avale, ça rentre dans le ventre. La Gemara nous dit ici un phénomène spécial. Avec sucre ou sans sucre, on s'en fiche. Tu manges, tu prends quelque chose de dur dans la bouche, quelque chose de solide, tu mets dans la bouche, et tu ne l'avales pas entier. Personne ne l'avale entier. Tu mâches la date, tu mâches le sucre, tu mâches la banane, et tu avales. Et ça rentre dans le ventre après avoir été en solide dans la bouche. Si tu manges une date, la grandeur de date, ça te calme. Mais si tu mets dans la bouche un liquide et tu l'avales, eh bien, ce n'est pas le chiour côté bête. C'est un autre chiour. C'est un chiour sans joue. C'est un phénomène qui n'est pas lié avec le sucre. C'est lié avec une autre procédure. Il y a une autre procédure psychologique de l'homme. Je mets dans ma bouche du liquide. Des fois, il y a des gens qui sont très asséchés. Tu mets un peu de l'eau sur la bouche. Dans la langue, ils se sentent un peu mieux. Il y a des phénomènes.
Peut-être que
des fins de nerfs, les nerfs quand ils terminent, terminaisons nerveuses avec des synapses ou je sais pas comment ça s'appelle, synapses et des réveils, des stimulations nerveuses qui créent un sentiment de satisfaction. Et cet appareil dans l'homme, il y a un appareil qui s'appelle nourriture qui satisfait. Il faut mettre dans la bouche et sachant si c'est liquide ou solide, il faut l'avaler et se rendre dans le ventre.
Peut-être. Et
ça crée un calme. Quoi?
Peut-être que dans la bouche, une grande bouche, il y a de la perte de la liquidité qui va dans le corps. C'est pour ça qu'une grande bouche, il lui faut plus d'eau, parce qu'il y a plus de pertes.
Perte où? Mais tout, il va dans le l'estomac.
Dans la joue, de l'évaporation, derrière.
Et si je mange, si je prends dans la bouche et je mâche, si je prends un solide dans la bouche et je mâche.
Il n'y a pas de perte, ça va tout dans l'estomac.
Je peux dire quelque chose.
Alors, Rabbi Ariel.
Oui.
Rabbi Ariel.
Je vous écoute, monsieur.
J'ai une expérience particulière.
Mettez votre bouche plus proche de l'appareil parce que j'entends pas bien.
J'ai une expérience très particulière.
Rapprochez-vous pour que vous entendiez mieux.
J'ai une expérience très particulière.
On ne vous entend pas, monsieur.
Voilà. Attends, mets-toi ici, tu vas entendre, et tu vas pouvoir parler.
Alors, là, vous m'entendez?
Oui, un peu mieux.
Oui, là.
Oui. Oui.
Alors, j'ai une expérience très, très particulière.
Parlez plus fort, mettez plus proche de vous.
J'ai une expérience très particulière du sucre génétique et j'ai une expérience très particulière de l'eau du sucre. Il est évident que comme je suis un hypoglycémie, ah, je descends, que ça m'arrive de descendre à 0,5 grammes par litre, 0,4, hein, et que je prends du sucre avec de l'eau, l'absorption est beaucoup plus rapide que si je prends du sucre tout seul. C'est comme je mélange le sucre à l'eau, l'absorption est la remontée du taux de sang.
J'ai entendu, je répète. Yom Kippour, l'interdiction de manger et de boire n'est pas de sucre. Il ne s'agit pas de sucre, il s'agit de l'eau même. On s'en fiche si c'est coca ou si c'est de l'eau, c'est le même shiur. On s'en fiche si c'est de la viande avec beaucoup de protéines, ou avec beaucoup de glucides, ou si c'est des champignons où il n'y a ni glucides. Et ni sucre, ni amidon. Dans les champignons, il n'y a rien, trois fois rien. Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de glucides, il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de machin bidule, il n'y a pas de vitamines, il n'y a rien dedans. Et quand même, si on mange une kotevet de champignons, ça s'appelle ça calme. Et si on boit de l'eau où il n'y a rien, dans l'eau, il n'y a ni de sucre, ni de graisse, ni de vitamines, il n'y a rien.
C'est un autre parce qu'au niveau de la quantité, il doit y avoir un système que quand ça rentre dans l'estomac, eh ben il y a une hormone qui s'appelle la gréline qui coupe la faim. Donc, avec une certaine quantité de quelque chose de solide, ça va déclencher cette hormone.
Mazal tov. Il y a ici un phénomène psychologique. Tu mets dans la bouche un aliment et ça crée des
je peux me permettre, je peux me permettre, Kvodarab, ce n'est pas tellement l'absorption, le fait que ça va agir dans ce que ça va rentrer dans l'organisme. Le fait est que de boire une certaine quantité va en quelque sorte apaiser cette difficulté que la personne ressent. Et comme vous dites, c'est un espèce d'effet placebo qui fait que tout de suite la personne se sent déjà un petit peu mieux. Elle n'est plus dans l'état de jeûne et dans ces difficultés-là.
Oui, oui. Qui est-ce qui parle?
Shlomo Bereshit.
Oui, parce que je ne vous vois pas. Comment ça fait que je ne vous vois pas?
Ah, ben vous savez, je vous ai dit, je ne sais pas jouer avec ces trucs. Je vais essayer
D'accord. Il y a un phénomène ça doit être un phénomène dans ce genre. Si voilà, ici, c'est le pshat. Mais lisons encore un morceau. Ah, maintenant, je vous vois. Une minute, docteur, je vais continuer encore un morceau de Gemara et on va un peu mieux saisir qu'est-ce que la Gemara va nous dire.
Excusez-moi, vous parlez de la boisson ou de la nourriture?
Les deux, Chacham de Manishtana. Mais ça marche sur un autre, il y a des détails. Lisons la Gemara. La Gemara nous dit, Kimlul Rabbanan, le Chacham Isaf, be Kotevet. C'est une date, c'est une nourriture de date, de behache meyat vedate. Avec cela, ça se calme. Batir mehache, moins qu'une date, l'omeyat ve, il ne se calme pas. Bishtia, mais pour la boisson. Bedidei, avec sa bouche, le volume de sa bouche, meyat vedate. il se calme, bedechavre, mais si c'est la grandeur d'une autre bouche qui est plus petite que le sien, l'omiyat vedate. C'est pour ça, ogmelechabashan, pour la boisson, il lui faut sa propre bouche. Mais pour la nourriture, ce côté, matkiv la rabizeira, rabizeira demande une bimbitimik. Comment tu peux dire que Ogmel Chabashan va se calmer en mangeant une date et le monde entier il va se calmer avec une date? Comment la mesure de nourriture, Islam pour la boisson, tu dis chacun avec sa propre bouche. Donc tu peux dire une grosse bouche a besoin de beaucoup d'eau, une petite bouche il y a peu d'eau. Mais vis-à-vis de la nourriture, tu dis qu'il y a un shiur vis-à-vis pour le monde entier. Donc, l'homme simple comme nous, c'est une date. Et Ogmel Chabashan, qui a un estomac 10 fois plus grand que nous, c'est aussi une date. Comment c'est possible? Amar lo Abaye, Abaye, il complique un peu la psychologie.
Moi, j'ai une
Abaye. Abaye, il dit. Et qui est-ce qu'il dit de Laurent Zerbib à moi? Qu'est-ce qu'il dit de Laurent Zerbib? Qui c'est Laurent Zerbib? Le maire de Genève?
Oui, c'est moi.
C'est le maire de Genève, il se mêle dans le truc. Ah, il y a plein de gens qui ont écrit ici des choses là. Alors, je regarde. Pour ce qui est de la boisson, cela dépend de chacun, car il s'agit d'actions sur les muqueuses de la bouche. Sur les muqueuses de la bouche.
Ça signifie en fait que chacun, le chiour dépend de chacun, puisque... Si j'ai une grande bouche, il faut que toutes mes muqueuses soient impactées. Si j'ai une petite bouche, j'ai besoin de moins. Donc, ça dépend de chacun. Ce n'est pas comme le chiour de nourriture.
Mm-hmm. Mm-hmm. Alors, j'ai, d'accord, Hazak. Mais je vais lire la Gemara. Amale Abaye. Abaye, qu'est-ce qu'il répond? Kim lehu le rabanan. Les chachamim, ils ont une tradition de Behache Meyat Vedate, avec le volume d'une date, ça calme. Batsir Mehachi, moins qu'une date, l'omiyadat Vedate, ça calme pas. Mihu, mais, Kula Alme, tout va, Ogmela Chabashan, pourta. Le monde entier, ça calme beaucoup, et Ogmela Chabashan, ça calme peu, mais ça calme. La Gemara nous dit, il existe un sentiment de satisfaction. Ce sentiment se déclenche à partir d'une grandeur d'une date. Chez l'homme avec un petit estomac, un homme normal, ça crée une grande satisfaction. Chez Ogmel Chabashan, ça crée une petite satisfaction. Mais ça crée une satisfaction. Et moins que Kotevet, ça ne crée ni chez Ogmel Chabashan, ni chez le simple. Le simple homme, moins que Kotevet, il n'a pas cette satisfaction. Et Kotevet, il a satisfaction. Et chez Ogmel Chabashan, c'est la même chose. Chez Ogmel Chabashan, c'est vrai que la satisfaction, elle est petite, mais elle est là. Une Kotevet chez Ogmel Chabashan fait plus d'effet qu'un peu moins que Kotevet chez l'homme simple.
Alors, on a trouvé comment trouver le chiour. Ça y est, c'est terminé l'histoire. Le chiour est terminé. On fait un test avec 100 personnes. Un gros, un petit, un grand. Et voilà, et le chiour est terminé.
Mais de quoi tu parles? Tu parles de nourriture ou de la boisson?
Maintenant, de quel côté, Vette?
Côté, Vette, on sait que... Ah, tu veux savoir quel est le chiour côté, Vette, aujourd'hui?
Ça y est, c'est fini. Oui.
Ouais.
C'est fini, c'est terminé l'histoire.
Ouais. Ça, c'est bon, ça. C'est bon, ça, parce que toi, tu es capable de mesurer qu'est-ce que tu appelles une satisfaction, toi. Parce que toi, tu es capable de me définir quand tu es satisfait, toi.
Oui, bien sûr.
C'est compliqué encore, il n'y a pas de satisfaction.
La personne qui est grosse, qui est très grosse, il va pouvoir te dire, tiens, ça y est, il va faire plusieurs tests, un jour, et c'est fini, c'est terminé. On a le moyen de faire.
Comment satisfaction, écoute-moi, d'après ma logique, je n'en connais rien moi, absolument rien, mais d'après ma logique, satisfaction, c'est aussi un truc relatif. C'est aussi, plus que tu manges, plus tu es satisfait. La Gemara nous raconte ici un secret, à la grandeur de Kotevet, il y a un clic, il y a un déclic. Qui est fin, ça y est, ça m'est calmé. Moins que Kotevet, tu me demandes à moi. Moi, j'aurais dit, plus que tu manges, plus tu es satisfait, ça va. C'est... Mais la Gemara nous raconte ici un hédos. Il y a un truc mesurable. Mais c'est dans la psychologie, c'est mesurable. Il faut peut-être des appareils. Peut-être un jour, on inventera des appareils de mesurer la satisfaction, de calmer la faim. C'est, ça passe un certain côté vête. Je sens une satisfaction. Le simple, une grande, et augmenter la région petite, mais on a senti une satisfaction. Moins que ça, on ne l'a pas senti. C'est un phénomène, nous, c'est un phénomène que la Gemara nous raconte ici. Et ça n'a rien à voir avec le sucre, rien avec la glucide. Maintenant, comme médecin, si quelqu'un, Yom Kippour, dit « je fais une malaise, donnez-moi à manger, à boire », on lui donne badaï du sucre. Parce que normalement, le malaise... vient pas seulement parce que tu as faim, c'est une malaise, c'est mon hypoglycémie, si je ne comprends pas. Je parle sous l'autorité du docteur, c'est des docteurs. Mais c'est, oui, c'est hypoglycémie, c'est autre chose, ça c'est un manque de sucre. Mais ici, on parle d'un homme qui n'a pas d'hypoglycémie, mais il souffre. Je ne mange pas, je ne bois pas, je souffre. Je bois de l'eau, ça me calme. Pas d'hypoglycémie, ça me calme. Je mange une côté, ça me calme. Et ce dîner, il n'est pas seulement Yom Kippour après-midi. Ce dîner, il est même vendredi soir, même à la veille de Kippour, à la rentrée de Kippour. Dès qu'il arrive Kippour, tu pries Arvit et on boit un peu de l'eau. Shiur melom lugma, chayav karet. Tu as mangé un côté, chayav karet. Et ça ne change pas si tu as jeûné 22 heures ou tu as jeûné 10 heures ou tu as jeûné 3 heures. Dès qu'un homme, il mange un côté vête, ça calme un peu sa faim, sa souffrance. Il boit un melolugmav, ça calme. C'est un phénomène psycho, je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment on appelle ça. Maintenant, quand on fait une glycémie, et docteur, et si vous me dites que quelqu'un fait une glycémie, il faut lui donner du sucre, vous faites une différence entre donner un sucre dur ou donner un de Coca-Cola, est-ce que ça changera quelque chose?
Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que le sucre en bouche, il va y avoir peut-être une petite pénétration sublinguale, mais ce n'est pas la même chose que si vous prenez avec de l'eau, ça va passer plus vite dans le sang.
Et le donc, Coca-Cola passera plus vite dans le sang que le sucre.
Oui. Mais de toute manière, ce que vous dites, c'est chacun a une sensation subjective de ce qui va le satisfaire au point de vue de boisson, au point de vue de l'appétit. Mais la Gemara, elle a donné un chiot pour tout le monde.
Attendez, docteur. La Gemara, elle n'est pas dans le Torah, elle a donné un chiot pour tous. La Gemara donne une logique. La Gemara, elle s'étonne. Pourquoi? Pour la nourriture, il y a un chiot pour tous. Et pourquoi? Pour la boisson, ça dépend de sa bouche. La Gemara pose une bombe atomique. Et la Gemara donne une explication. Kimlu le rabbanan le chachamim ikon, ça veut dire la Torah, il a donné au chachamim un outil que pour la nourriture, il a calmé d'un côté être calme moins qu'un côté être ne calme pas. Et pour la boisson, le calmement vient d'après la grandeur de sa bouche. La Gemara rentre ici dans un secret. Elle ne nous jette pas à la tête. Halakha la machine, c'est comme ça et point la ligne. Elle ne nous jette pas ça à la tête. Elle nous explique un phénomène. Oui, docteur Misika.
Il y a une petite notion à savoir aussi, c'est que quand on boit une quantité, c'est par rapport à sa hauteur et à la taille de la personne. Et maintenant, on va se poser la question, pourquoi le manger, ce n'est pas pareil? Parce qu'il me semble qu'il y a une différence entre la longueur et les surfaces et les volumes. Les longueurs, les surfaces et les volumes n'augmentent pas de la même manière. Il faudrait peut-être rechercher dans ce domaine-là. Ce qui va remplir l'estomac, c'est l'estomac, il grandit pas aussi vite que la hauteur de la personne. C'est une notion que le volume d'une sphère, elle va plus vite que. Bon, c'est des notions à tenir en ligne de compte. Par exemple, pour faire un petit clin d'œil à le docteur. C'est que quand on donne des traitements de chimiothérapie, pour être très précis, on ne donne pas en fonction du nombre de kilos de la personne, mais en fonction du mètre carré de la personne. Donc, ça, peut-être que ça touche cette notion-là. On dit, c'est pas un gars qui fait 70 kilos, on va lui donner tel traitement. On dit, c'est un gars qui fait 70 kilos, ça correspond à tant de mètres carrés. Et c'est pas quelque chose qui est linéaire. C'est que...
Oui, mais d'accord, mais je suppose que Ogmel Achabashan, il est 10 fois plus grand que nous, 5 fois plus grand que nous, sa bouche est plus grande que nous, et son estomac probablement ici est plus grand que nous. Et pourtant, l'Agmara nous dit que vis-à-vis de la nourriture, c'est pareil. Et vis-à-vis de la boisson, non. Voilà, c'est ça qui est marqué dans l'Agmara.
C'est en fait la nourriture qui rentre dans l'estomac, ça déclenche chez tout le monde, que ce soit un gros ou un petit, un déclenchement de satiété. C'est la nourriture, ça, mais pas dans la boisson. Mais pas dans la boisson.
Oui, oui, il y a deux appareils. Il y a deux appareils dans la tête. Et un appareil psychologique, qui s'appelle boisson psychologique, ou comme il dit là, M. Herbib, c'est la muqueuse de la bouche, les différents phénomènes physiologiques qui font qu'il y a un appareil de nourriture et un appareil de boisson, et les deux, ils satisfaient, mais pas de la même
façon. Ceux qui s'occupent pour faire maigrir les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'à partir du moment où on a mangé la première bouchée, eh ben, il faut attendre une demi-heure à peu près pour ne plus avoir faim. Donc, ils allongent le repas. Comme ça, la personne, après, elle ne mange pas beaucoup. Ils essayent d'allonger le temps du repas. Parce qu'il y a un phénomène d'hormones qui commence à démarrer. Donc, chez tout le monde, ça démarre, ça. Que ce soit Ogmeler, Habashan ou pas. Donc, à chaque fois que ça est rentré dans l'estomac, il y a un phénomène dans le sang qui fait attention, attention, maintenant, ça va être. On doit s'arrêter de manger.
C'est 20 minutes, Serge. 20 minutes. C'est 20 minutes.
Mistama, tes paroles, ils ont un rapport avec cette soukha, oui. Ça déclenche des hormones qui créent après une satisfaction, un calme. Et pour ça, déclencher cet appareil, il faut. C'est comme dans des ventilateurs dans les voitures. Quand tu démarres une voiture quand elle est froide, alors, ou quand c'est chaud, quand tu roules, il y a un moment où le ventilateur se déclenche. Un certain. Bon, d'accord.
En tout cas, les Chachamim, ils savaient ça, c'est très fort.
Non, les Chachamim, c'est Moshe Rabbeinu qui a dit ça. Moshe Rabbeinu, Hachem, il a dit ça à Moshe Rabbeinu, le bon Dieu, il connaît. Mais qu'est-ce que je voulais dire? On va se rencontrer à 14h maintenant.